Aujourd'hui, j'ai un message très, très simple. Tu peux haïr ta famille. On nous inculque très, très jeune que la famille, c'est la chose la plus importante. Il faut aimer son père, il faut aimer sa mère, il faut triper sur sa sœur. Mais tu peux tomber dans une famille d'abrutis. Ici, tu choisis pas ta famille. Si par hasard, tu es tombé sur plein de gens stupides et méchants, tu peux les haïr. C'est super, super normal de s'extirper de gens qui te font mal et qui sont tout croche. Moi, je déteste l'idée que... On dit souvent que la famille devrait les aimer d'un amour inconditionnel. Puis moi, je trouve ça débile parce que moi, mon amour est conditionnel. Je vais t'aimer sous certaines conditions. Si tu es méchant avec moi, si tu manipules, si tu es passif-agressif, si tu n'acceptes pas la critique, je veux pas t'aimer. C'est terrible. Alors, si ta famille est fucked up, si tu as un membre de ta famille, c'est normal de ne pas y parler et je t'encourage d'arrêter ça. C'est super, super sain. T'sais, souvent, on peut passer des années en thérapie ou à essayer de corriger le lien avec notre père ou notre mère ou notre oncle. Ou des fois, juste « fuck it ». Des fois, on n'est juste pas fait pour s'entendre. On a des collègues qu'on n'aime pas et qu'on évite. On peut faire la même chose avec des membres de notre famille. Alors voilà. Noël prochain, si tu n'aimes pas ta famille, juste faites pas Noël. Faites Noël avec des Juifs et des Arabes. Puis va au cinéma. Moi, c'est ce que je fais depuis l'âge de 12 ans. Je chill avec des Juifs et des Arabes. On va voir des films vraiment, vraiment cool. Parce qu'à Noël, il y a toujours des films extraordinaires qui sortent. Puis ça me permet de pas traîner avec du monde qui me font pas triper. Bon podcast. Yannick, merci beaucoup, 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 beaucoup d'être ici.
Ça fait plaisir.
Je suis très, très, très heureux. Commençons par le commencement. C'est quoi ton nom? T'es né où et en quelle année?
Yannick Demartino, évidemment. Je suis né en 1989 à Saint-Hyacinthe.
Oh, OK. Ouais. Et qu'est-ce que tes parents faisaient dans la vie?
Je sais pas.
Tu sais pas?
Non, mon père, mon père, c'est vraiment un mystère.
Okay.
Je l'ai connu comme à 18 ans, puis il est mort après deux rencontres.
Wow.
Donc, ouais. Ben, tu sais, souvent, il y a comme un malaise quand je dis ça, mais il faut pas en avoir un, parce que je l'ai pas connu assez longtemps pour vivre un deuil.
Mm-hmm.
Donc, tu sais, des fois, les gens sont mal à l'aise, sont comme, je sais pas comment réagir, puis ils associent probablement des en fait, ils me donnent des émotions que eux... Et ils véhiculeraient si leur père mourait, mais moi, c'est pas la même chose.
C'est pas un gars que tu connaissais. Là.
Non, c'est ça, j'ai pas perdu un père. T'sais. Ben, biologiquement, oui, là, mais.
C'est pas la figure paternelle, juste non. Un gars qui. Mais qu'est-ce qui s'est produit? Comment ça, t'es.
C'est vraiment un mystère, mon histoire familiale. Puis ma mère, elle, était pas mal sur le bien-être social toute sa vie. Là.
OK.
Ouais.
Fait que ta jeunesse, ça ressemblait à quoi?
J'ai déménagé énormément. J'ai dit que je suis né à Saint-Hyacinthe, mais je suis souvent associé à Grenby. C'est parce que j'ai secondaire 3 à 5, j'ai été à Grenby. Ça a comme été vraiment les années de ma vie qui m'ont le plus marqué. C'est là que j'ai développé des liens plus intimes et tout. J'ai des amis que j'ai encore aujourd'hui. Mais avant ça, j'ai comme déménagé tout le temps.
C'est comment ça, tout le temps déménager?
Je sais pas, c'est rétroactivement, je trouve pas ça agréable.
Okay.
Mais tu sais, dans le moment, honnêtement, je m'en rendais pas compte. Je n'étais pas capable de comparer, j'avais pas d'amis proches tant que ça, vu que je déménageais vraiment. Des fois, c'était. Des fois, je pouvais rester un mois quelque part, puis okay. Je partais. Fait que je savais pas c'était quoi, je pouvais pas comparer avec le quotidien d'un autre enfant, je savais pas vraiment. Donc à l'époque non, je traînais mon Nintendo, je jouais à Kirby. Fait que tu sais que ce soit à Lévis ou à Saint-Jean-sur-Richelieu, je jouais à Kirby. fait que mais aujourd'hui je le vois que c'est sûr que c'était pas stable comme
quotidien. Penses-tu que ça a des impacts sur qui t'es devenu, sur des...
Probablement. J'essaie encore d'identifier les points de ma personnalité qui ont pu être affectés, mais je sais pas. Je pense que j'ai de la difficulté peut-être avec la stabilité.
OK. La difficulté dans le sens que t'en as peur ou la difficulté ça t'intéresse pas?
Je sais pas, j'ai peur des deux. C'est quand j'ai comme mon quotidien installé, rapidement là j'ai envie, c'est possible que j'ai envie vraiment de justement de vouloir déménager ou j'ai envie drastiquement de changer quelque chose.
Mm-hmm.
Puis pourtant, quand là, tout est un peu éparpillé, puis je sais pas, ben là, j'ai envie d'un quotidien. Mais ça, je pense que c'est quand même assez classique, là, comme chez l'être humain. Là. C'est comme les gens qui sont célibataires, ils veulent être en couple, sont en couple, veulent être célibataires. Fait que je sais pas à quel point ça l'a affecté, parce que j'ai l'impression que c'est quand même commun, tu sais, ces peurs-là, cette anxiété-là.
Oui, c'est vrai. Ça. Plus on discute de nos anxiétés, plus on parle de nos peurs, on réalise... On a toutes les mêmes peurs. Moi, je sais que ma psy, ouais. Ce qu'elle m'avait. La conclusion de ma psy, parce que moi, ma mère est morte quand j'avais 4 ans,
mm-hmm.
J'ai tellement peur de perdre quelque chose que je m'arrange pour le perdre. Puis vu que moi aussi, c'était chaotique mon enfance, moi, je croyais que j'aimais ça, le chaos. Ouais. On m'a dit que j'aime pas le chaos. J'ai tellement peur que le chaos arrive que
Tu le provoques.
Je le provoque un peu comme ce qu'appelle l'appel du vide. Là. L'appel du vide, c'est quand t'es en haut d'un escalier, t'as envie de te lancer ou dans le trafic, t'as envie de te lancer dans une autre voiture. T'as tellement peur de ça que tu te pitches dedans.
Ouais.
C'est ce qu'elle avait décelé.
Okay.
C'est vraiment intéressant.
Ça se peut que ça se peut que j'ai ça aussi.
Sinon, c'est quoi les œuvres d'art que t'écoutais quand t'étais petit? Est-ce que t'aimais la comédie quand t'étais...
Pas dingue ça. Je suis pas un très grand fan d'humour, en fait. Je pense j'ai commencé à écouter des spectacles d'humour. Je pense que j'avais 13 ou 14 ans. J'ai découvert Andy Kaufman.
Cool.
Ça, quand j'ai vu Man on the Moon, ça m'a quand... J'ai fait, oh.
C'est tellement un bon film.
Vraiment, puis je savais pas que c'était basé sur une vraie vie. Fait que quand j'ai appris après ça que c'était biographique, j'ai fait « Oh, OK ». Puis là, j'ai découvert comme qu'est-ce que Andy Kaufman faisait et tout. Je trouvais ça vraiment intéressant. Sinon, plus jeune, je sais pas. Ben, je me souviens que « Requiem for a Dream », c'était un film qui m'a vraiment marqué.
C'était super, ça.
Ouais.
J'ai aimé ce film-là jusqu'à temps que je prenne la drogue. Okay. J'ai réalisé, c'est vraiment, vraiment fait par quelqu'un qui n'a pas fait beaucoup de drogue et qui aime pas ça.
Mm-hmm.
Quand j'ai vu Trainspotting, j'ai fait « Ah, ça, c'est faire de la drogue! » Parce que dans Trainspotting, il y a beaucoup le plaisir de prendre de la drogue. « Requiem for a Dream », c'est très, à mon avis, très, très américain. C'est très vrai. C'est très, si tu prends de l'héroïne, tu vas te ramasser à te prostituer puis perdre ton bras.
Ouais, je comprends ce que tu veux dire. J'ai pas ça, par exemple. J'ai jamais fait énormément de drogue, là. Fait que peut-être Moon, mais moi, j'avoue que c'est... ouais.
Mais qu'est-ce que t'aimes dans ce film-là?
Ben là, ça fait longtemps que je l'ai vu, mais ça je pense que c'était juste les émotions que ça générait, là. Je me souviens que c'était vraiment intense, là. Tu sais, moi... Quand un film termine, ça prend un vrai 5 minutes avant de parler, je me dis comment, ça devait être bon. même j'ai le goût de pleurer, whatever. Je l'ai dit justement à mon fils un moment donné, parce que lui, il a pleuré devant le film Thor.
OK.
parce qu'il comprenait pas à la fin. Il faisait, pourquoi son frère, il est pas cool avec? Puis là, il pleurait à la fin du film. Puis là, il était comme gêné. Puis j'avais dit, non, mais c'est correct. Si tu pleures, ça veut dire que le film est bon. Mm-hmm. Mais j'avais oublié de dire que c'est pour un drame. Là. Fait que là, sa mère, elle écoutait avec lui genre un film d'humour. Puis il fait, oh non, c'est moyen, je suis pas pleuré.
Oh, magnifique.
C'est cute.
C'est tellement mignon.
Ouais.
Mais c'est. Toi, est-ce que tu pleures souvent? Ou c'est.
Dans vie, non. En lisant, en écoutant des trucs, ouais.
Ah, waouh! J'ai envie à ce niveau-là.
J'ai comme besoin d'avoir la distance. Si c'est sur ma vie, jamais.
Okay.
Mais quand le pire, c'est que c'est drôle parce que les trucs, évidemment, qui me touchent le plus, c'est les trucs dans lesquels je me reconnais. Mais il faut que ce soit juste quelqu'un d'autre. Fait que sûrement, si je pense à ma vie, puis je dis comme, mais c'est arrivé à Tommy, on peut peut-être pleurer sur des événements. Genre. Mais non, sur ma vie, vraiment pas. On dirait que je suis un petit peu plus. Pragmatique, puis je suis comme, bah non, ça arrive, puis tout est correct, mais les histoires, mais j'étais un peu, hey, c'est drôle, j'ai réalisé, je pense, cette semaine, hey, ça a l'air, tu connais-tu Cobra Kai?
Oui, tu m'en as parlé, okay. Ça, c'est, explique aux gens.
Ben en gros, c'est comme une série, ça se passe 20 ans plus tard que les deux acteurs principaux de Karate Kid, là, le vieux film là, de karaté, puis c'est comique parce qu'ils remettent en perspective tout ce qui est championnat de karaté, parce que là, t'as les femmes, des gars et tout, puis à un moment donné, ils sont... Mais là, revenez-en là, de votre rivalité là, de karaté, tu sais. Fait que tu sais, comme ils ont des vies, maintenant, c'est plus des ados, fait qu'il y en a un qui est... T'as Daniel San, qui est comme le gagnant, tu sais, du championnat à l'époque dans le film, là. Le héros du film,
en fait. Qui est sur un pied, puis qui donne un coup de pied.
Exact. Puis là, d'ailleurs, ils partent un peu sur la prémisse que ce coup de pied-là, il est illégal, là. C'est vraiment bon. Honnêtement, c'est vraiment bien écrit.
C'est comique, je crois.
Oui.
C'est humoristique, oh, c'est pas très, très sérieux.
Ben, non, vraiment pas. Mais moi, ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas tout le temps non plus des gros gags. Tu sais, c'est ben, pas dans le sens que c'est des petits gags, là, mais plus dans le sens que c'est dans le jeu, dans le ton.
L'intrigue prend plus de place qu'il faut absolument qu'on fasse le plus de blagues possible.
Puis il y a beaucoup de parodies aussi de série B. Là. Les batailles, des fois, de, t'sais, ils sortent leur karaté dans un conflit au dépanneur. Là. Ça, moi, je trouve ça malade. Mais tu sais, que garder un ton crédible et tout, moi c'est ça que j'aime. Il n'y a rien. En fait, tout est exagéré sauf le jeu.
Génial.
C'est ça que j'aime. Puis l'autre, Johnny Lawrence, dans le fond, le méchant là, dans le vieux film, moi, il me fait vraiment rire. Là, parce qu'il joue vraiment comme un. Tu sais, il est typé. Là, c'est vraiment un loser, pas capable de s'occuper de son enfant. Puis il capote juste sur le karaté. Et les années. Je sais pas si ça se passe à quelle époque. Je pense que c'est aujourd'hui. Là, fait que, t'sais, les années, nos années, 2000, ça le dépasse. Là. le gars, en plus, t'sais, tu sens qu'il a une belle sensibilité. Il veut être ouvert d'esprit, mais tout le dépasse. J'aime bien le personnage. En tout cas, tout ça pour dire que j'ai réalisé que les trucs qui me touchent le plus, puis j'ai pas encore compris pourquoi puis de où ça me vient, mais quand... Il y a quelqu'un qui accomplit quelque chose et son entourage est fier de lui.
Oui.
C'est je pleure.
Wow. Ouais.
Mais c'est vraiment là, ça vient me chercher. Puis des fois, ça peut être vraiment, vraiment cheesy. Là. Puis je me souviens que dans Cobra Kai, il y a une scène. Je me souviens plus c'est quoi, mais genre, je pense que c'est genre un kid qui réussit genre
à casser
une planche de quoi de même. Là, puis là, c'est vraiment un chouette. Là, tu sais, quand ça shake, là, tu sens que ça va venir. Je fais, ben non, je pleurais pas là, là. Puis là, je me suis mis à pleurer j'étais fier de lui.
Ah, ça, c'est cute.
Mais ça m'arrivait la même affaire dans. Tu sais, les deux frères qui se battent dans un tournoi de UFC. Là,
oui, Warrior. C'est un excellent film.
Ouais, ça, j'ai pleuré quand. Puis tu sais, j'aurais pu pleurer à plein de moments, mais je me souviens, c'est quand. La femme du... Pas Tom Hardy, l'autre.
Ouais, la femme du gars straight, si on veut, qui a un job.
Exact. Et... Puis lui, dans le fond, quand il réussit, quand il gagne son premier combat, puis sa femme qui voulait pas qu'il combatte, puis tout, puis là, il est chez eux, puis il est fier de son mari, là, j'ai pleuré.
Oh,
c'est comme la fierté beau. D'un proche qui me rend...
Mais de la famille, surtout.
Peut-être.
Ah, wow! C'est fascinant, ça.
Peut-être c'est un manque, justement, au niveau de la famille. Je sais pas. Honnêtement, j'ai pas identifié.
Mais les deux, je pense qu'on a ça en commun. Une fois, t'avais dit, il y a quand même 5-6... T'avais dit un truc. Je te cite, là, encore, il y a 5-6 ans, puis peut-être que t'as même pas dit ça, puis j'ai inventé ça.
Okay.
Mais t'avais dit, moi, ma famille, pour moi, c'est pas important. Je préfère mes amis, c'est eux qui me supportent. Puis quand t'avais dit ça, j'avais trouvé ça génial, parce que j'ai grandi comme ça. Moi, j'ai grandi que ma famille est bizarre. Je me suis détaché d'eux. Puis moi, ça vient me rattraper dans ma trentaine. Là. Je réalise que j'ai un peu plus un manque. Il y a certains de membres de ma famille qui veulent venir. Comme aujourd'hui, sur Facebook, un membre de ma famille qui a commenté son numéro de téléphone pour que je le rappelle.
Okay.
Ça me rattrape. Et je me suis... Ouais, ça m'a vraiment, vraiment touché quand t'avais dit ça.
Okay.
Puis j'avais réalisé qu'on avait de quoi en commun. Je me sens vraiment, vraiment, vraiment touchant. Puis ça m'avait rassuré quelqu'un qui sentait la même chose que moi.
Okay.
Qui sentait que... il pouvait évoluer sans l'apport de sa famille ou sans que ça fasse l'approbation de sa famille.
Ouais, ben effectivement, mais c'est sûr, moi, ça n'a pas été un choix non plus. Tu sais, ma mère, dans le fond, mon seul contact, moi, que j'ai dans ma famille, c'est ma mère. Mm-hmm. Puis en vieillissant, j'ai vraiment réalisé qu'elle était... Tu sais, ma mère est quelque chose du tout, elle est un peu fucked up. Là. Comme, mettons, je partais... Moi, je travaillais dans une épicerie, puis j'achetais mes trucs, parce que ma mère avait pas d'argent, elle n'avait pas de sous, évidemment, là, elle était sur le bien-être social. Puis si je partais à l'école, puis j'oubliais de barrer ma porte de chambre, ou, tu sais, ben barrer, tu sais, à ce bord de... En tout cas, j'avais trouvé comme un moyen là, de barrer, parce que sinon, ma mère vendait mon stock.
Wow!
Fait que j'ai réalisé assez jeune qu'elle pouvait être toxique, puis c'est... Ma mère, c'est un peu... C'est particulier, là, parce que... Elle a jamais eu d'argent, mais c'est son seul sujet. Il y a tout le temps des problèmes d'argent, il y a tout le temps, elle veut. Mm-hmm. Puis elle est prête comme à faire tout pour de l'argent, donc c'est même particulier. Puis elle comprend, elle est comme un peu coupée de ses émotions et tout, donc j'ai coupé le contact, là. J'ai coupé le lien parce que c'était pas. Ça m'apportait rien, puis elle était pas capable pas de comprendre, ça la dépassait.
Pas juste que ça t'apporte rien, ça t'enlève des trucs. Oh, mais littéralement, elle t'enlève. Oh, c'est très, très, très. c'est caricatural à te voler des choses.
Oh, non, non, on dirait une joke.
Ma mère, là, astuce pour l'énergie. Non, toi, c'est pas juste une image.
Non, on dirait une joke, là. Puis ma mère comprend pas. Je me souviens, j'en avais reparlé un moment donné. J'ai dit, tu sais, c'est fou, là, faire ça. Puis elle me disait, bon, mais je t'ai donné la vie.
Ah, oh, sacrifice de calice.
Je sais comment, mais ça justifie pas de vendre mon Nintendo, là.
Excuse-moi, mais ça n'a pas de sens.
Non, mais ça n'a pas de sens. Puis si elle en avait besoin, honnêtement, ça me ferait plaisir.
Bien sûr.
Si elle en a pour de vrai de besoin, mais c'est ça, maman, c'était. Parce que dans le fond, quand elle recevait son chèque du bien-être social, elle allait acheter des. Elle s'achetait des manteaux de fourrure, elle allait se faire. Pas couper les cheveux, mais peigner. Elle payait quelqu'un pour se faire. Fait que c'est. Mais en fait, c'est ça, c'est. Maman, ça, je te dis, c'est que c'est bien mystérieux, la vie de mes parents, mais j'ai commencé à poser des questions à des oncles, tantes que je connaissais pas, mais que j'ai retrouvées, puis là, j'appelle, puis je pose des questions. Puis, en fait, j'ai appris qu'ils ont été riches, mes parents, pendant 3 mois.
3 mois?
Ouais.
OK, ça m'intéresse. Comment ça? Comment t'es riche pendant 3 mois?
Le père de ma mère, quand il est décédé, il a légué 500 000 $ à sa fille et à son fils. Mon oncle, dans le fond, lui, il a réussi, il a placé son argent et tout, été intelligent.
Ben oui.
Et ma mère a comme tout dépensé. Mais elle avait jamais rien eu de sa vie.
En donc, trois mois,
ça a l'air que c'était.
Trois
mais
mois.
Moi, mes photos de bébé, là, j'en ai mis sur Instagram, j'ai des bagues.
Oh mon Dieu, c'est extraordinaire.
Parce que j'étais bébé à l'époque,
ben oui.
quand il était riche. Puis, je suis pas en train de dire que j'ai déjà été un bébé.
En passant, je suis comme vous autres, gang, j'étais un bébé.
Mais ouais, puis j'avais des chaînes puis des bagues.
T'étais un petit rappeur. T'étais comme les enfants des rappeurs.
Ouais.
C'est génial.
Puis, ouais, c'est ça. Fait que ça montre à quel point ils dépensaient dans n'importe quoi. Là. Parce que 500 000, c'est beaucoup d'argent. Ouais, c'est ça. Parce que 500 000, c'est beaucoup d'argent. Mais en même temps, tu fais pas une vie.
Parce que malheureux que 500 000, c'est que c'est beaucoup d'argent pour virer fou. C'est ça. Tu peux pas créer ce qu'on appelle. C'est pas de la richesse.
C'est ça.
Wow.
Non, c'est ça. Puis il faut que tu te places, faut que tu fasses. Eux, ils travaillaient pas. Puis c'est ça.
Ben voyons ouais. donc.
Fait que. Absurde, mais je pense que c'est ça qui a fait un peu snapper ma mère. Parce que, tu sais, dans sa tête, c'était fait, elle était riche. Sa vie était faite.
C'est réglé. Ouais. En plus, quand tu connais pas l'argent, tu penses que 500 000 $ j'en ai pour 3 générations!
C'est ça.
Wow!
Ouais. En plus, ma soeur, moi, était... Tu sais, j'avais comme 1 an ou 2. Puis ma soeur, ça veut dire, elle avait 10-11 ans. Puis elle a même pas placé ma mère, tu sais,
un petit 10 000, tranquille.
Un petit 10 000, exact. Tu sais, ça aurait pas été beaucoup d'argent là, de placer puis faire fructifier ça, mais non.
Rien. Juste des bagues à mon bébé.
Ouais.
Puis aller me faire peigner dans le meilleur salon de coiffure.
Moi, Souris Mini venait m'habiller.
Ça n'a pas de sens!
Ouais, c'est vrai.
Aïe aïe!
Ouais.
Aïe aïe! Pendant 3 mois, tu as vécu comme un gars de Monopoly.
Ouais. Mais c'est plate parce que c'est même pas des souvenirs que j'ai. J'aurais aimé ça au moins m'en souvenir de l'époque où j'étais...
un baller,
un bébé baller.
Oh wow, ta soeur comment elle a vécu ça? Hey, pendant 3 mois, c'est pas. Le bordel.
C'est la même chose, ma soeur, j'ai pas... Je sais
t'as
pas.
Coupé.
Ouais, mais... Ouais.
Aïe aïe.
Ouais.
Et qu'est-ce qui s'est produit avec... OK, comment t'as commencé à faire de l'art?
L'impro.
OK.
J'étais arrivé à Lévis. Comme que je dis, je déménageais tout le temps. Puis à un moment donné, je pense que j'avais secondaire 1. Ouais, secondaire. J'ai entendu un téléphone.
Oh, c'est pas grave.
OK. Ouais, secondaire 1, j'ai passé de Grimbay à Lévis. Et quand je suis arrivé à Lévis, à la base, moi, je voulais aller faire du hockey Cosum au Patro de Lévis.
Let's
qui
go.
Était comme un. c'est un centre jeunesse. Dans le fond, un genre de. Comment ça s'appelle?
Des maisons des jeunes.
Maisons des jeunes, ouais. C'était genre. C'était
un
genre
endroit ça. Où les jeunes peuvent aller se regrouper, exact. Faire des activités, être encadrés.
C'est ça. Puis là, j'arrivais à secondaire 1, j'étais comme, m'aller jouer au hockey Cosum, peut-être me faire des amis. J'avais le feeling que, je sais pas pourquoi, mais dans le fond, c'était la première fois que ma mère et ma soeur étaient réunies. On a été à Lévis pour aller aider ma soeur qui venait d'accoucher et tout. Là.
OK.
En tout cas, fait qu'à la base, on était près de ma soeur, mais je me suis dit, OK, ben peut-être que là, m'a resté un bout, puis vu que j'arrivais au secondaire, j'espérais rester là, puis avoir des amis, parce que c'est encore plus difficile changer d'école au secondaire. Là.
Tellement.
C'est vraiment, parce que moi, je l'ai vécu, là, tout mon primaire, je dois avoir fait peut-être une quinzaine d'écoles, puis au secondaire, j'en ai fait peut-être 5, quelque chose comme ça. Et ça a été vraiment difficile au secondaire. Là. Mais à partir, c'est ça que je suis arrivé à Lévis.
Au primaire, je peux comprendre que c'est facile parce que tu l'as dit toi-même. Aimes-tu les Pokémon? Moi aussi, j'aime les Pokémon. On est les meilleurs amis du monde. Au secondaire, c'est un peu plus compliqué.
Oui, puis aussi, souvent, ils ont leurs amis du primaire. Ça devient, ça soude. Il y a plein de petites gangs. Puis là, t'arrives là. Puis moi, j'étais très timide. Puis ouais, c'est ça. Fait que là, je m'en vais pour aller jouer au hockey Cosum. Mais tu sais, je suis de nullité. Je suis vraiment nul. Mais je me dis comment va me faire.
Ouais, si tu fais jamais de sport, t'es pas bon dans le sport. Comme n'importe quoi, si t'as jamais joué du xylophone, surprise, tu vas pas être bon au xylophone.
C'est ça. Fait que là, on fait la game. Puis tu sais, je vois que ça se passera pas tant que ça avec les sportifs, là. Je suis pas la nouvelle étoile que c'est comme, hey, de où tu viens? T'es mince, c'est quoi? C'est un don? C'est pas ça, pantoute, ce qui se passe, là. Et je pense que j'avais comme insisté pour aller gardien de vue. C'est la seule chose que je disais. J'étais vraiment sur le divan, j'attendais que ça commence. Tout le monde parlait entre eux autres, tout le monde se connaissait. Là, il m'a amené, hey, t'es qui? Ben, je suis nouveau, je viens d'arriver à Lévis. OK, tu. Puis là, je fais, je veux gauler. OK, mais il y a. Non, je veux gauler. Puis là, OK, mais là, je gaule, puis tu sais, je pense que j'ai fait. Il y a eu 25 buts. Là.
Oh, c'est extra. Gauler, c'est vraiment tough.
C'est tough. Puis, tu sais, j'avais jamais fait ça de ma vie. Là,
ça n'a pas rapport, gauler, vraiment. C'est pas naturel. C'est pas naturel de se mettre devant un objet là, quand il arrive à toi.
Mais je me disais, avec le masque, moi, être moins gêné.
Ah.
C'est con de même.
C'est vraiment pas con, au contraire. C'est brillant. Ben oui, t'es gêné si j'ai un masque. Ah.
Parce que moi, je me disais, moi, j'espérais que la magie opère. Puis, tu sais, être bon.
Comme dans les films. Dans les films, c'est ils sont juste géniaux. Ça existe. Ah, ouais. Oh, moi, j'ai toujours eu ça. Savoir jouer de la guitare. Ben non, faut que tu joues des gammes. Pis.
C'est ça, exact. Puis là, j'étais retourné au Patro. Puis là, j'ai retourné pour jouer au hockey Cosum. Là, ils me disent, hey, il n'y a plus de place. Je savais que c'était de la bullshit. C'était juste, je joue pas avec nous. Mais là, ils m'ont dit, ils m'ont envoyé dans un petit local. Ils m'ont dit, ah, il y a une autre activité aujourd'hui. Puis c'était de l'impro. Mais moi, j'avais aucune idée c'était quoi. Puis là, je me souviens encore, première impro à vie, c'était le blond aux chaussures noires. Puis là, je me souviens parce que ça, l'impro, c'est vraiment bien déroulé, mais moi, je comprenais pas. Tu sais, dans ma tête, tu sais, on dirait que quand t'es jeune, tu te fais rire. Oui. Tout le monde pense qu'ils sont comiques.
Oui.
Mais quand tu vieillis à un moment donné, tu réalises comme, est-ce que les autres me trouvent comique? Puis c'est là vraiment, moi j'ai compris, parce que moi j'étais sûr que le monde riait de moi. J'étais comme, je suis dans un gros dîner de cons. Ça riait, ça applaudissait, puis j'étais comme, bon, j'ai l'air d'un tweet. Puis là, moi à ce moment-là, je comprenais pas que ce que je disais était comique, puis j'avais de la répartie. Puis après ça, c'était, hey, veux-tu faire l'équipe de tournoi? Là, je suis comme, bon, ils veulent m'humilier en contexte de tournoi. Tu sais, dans ma tête, j'étais pas bon. Puis là, finalement, j'ai comme réalisé au fil des matchs que les autres me demandaient des trucs. C'est comme, comment tu fais pour penser vite? Là, qu'est-ce qui me passe par la tête, là. Puis là, j'ai réalisé de, ah, OK, ben j'ai un potentiel en impro. Puis j'ai commencé
t'as
vraiment...
T'as un talent? Disons-le, t'as un talent.
Peut-être pour... Ouais,
je reviens à ce que j'ai dit, puis je suis pas d'accord. Il y a des gens qui, dans le sport, ont un talent naturel. Je veux dire, LeBron James, il a toujours été plus rapide que les autres. Il comprenait. Il y a des gens qui ont un talent en or. T'as trouvé ton talent, c'est cool.
C'est pour ça que je dis, par exemple, peut-être potentiel, mais ouais, ça revient au même. Là. Tu sais, dans le sens qu'après ça, c'est le nombre de temps que tu vas... Tu sais, probablement qu'il y a des gens qui ont plus de potentiel que des gens qui sont servis, qui ont développé... je veux dire, ça se développe quelque part, mais c'est sûr qu'il y en a qui partent pas du même point
c'est
de départ.
Tu dis ça, il y a une théorie qui dit qu'au tennis, on saura jamais c'est qui le meilleur joueur de tennis, parce que c'est juste les riches qui y jouent.
Ah, c'est vrai.
Mais exemple, on revient à LeBron James. Ouais. Une raquette dans les mains de LeBron James à 6 ans.
Ouais.
Puis regarde à 19 qui m'a dominé. LeBron James, 6 pieds 9 au filet, puis je pense pas que tu peux le passer.
Ouais, ouais.
Il y a aussi une question de circonstances.
Ben oui, c'est vrai.
Puis pareil, je pense en art, c'est pour ça que c'est important d'avoir le plus de gens, les écoles de théâtre, ou des gens de tout azimut, parce qu'il y a plein de potentiels qui sont pas.
Ben oui, oui, oui. C'est clair. Ben oui.
Okay, ça a commencé comme ça. Très rapidement, tu as fait des tournois d'impro.
À Lévis, mais je suis déménagé rapidement aussi. Puis c'est là que je suis arrivé. En fait, secondaire 3, je suis arrivé à Granby. J'ai fait Lévis, Saint-Romual.
Finalement, tu t'es ancré en quelque part.
Mais en fait, je me déplaçais d'un endroit à un autre, mais c'était tout le temps ça. Je me faisais des amis à l'impro. Puis en ayant fait des tournois, là, même si je pense que je m'étais retrouvé à Trois-Rivières, puis je connaissais une fille qui était dans l'équipe d'impro de Trois-Rivières, qu'on s'était croisés en tournoi. Fait que là, je commençais à avoir des amis de changer d'école, mais j'allais voir le monde d'impro. Ah oui, on s'est croisés. Mm-hmm. Donc là, ça se passait quand même mieux qu'avant. Puis quand je suis arrivé à Granby, c'était fou l'impro. Secondaire 3, là, premier match, je me souviens. Moi, j'avais juste joué dans
des petits locaux.
Ah ouais, tout petit. Puis même les tournois, tu sais, c'était 7 parents bien motivés un samedi matin avec leur café qui nous, tu sais, qui écoutent des jeunes faire des jokes. Puis tu sais, même si pour les jeunes, j'étais pas prêt à m'emmener, là, ça restait tu sais, j'étais un kid de 13 ans qui faisait des jokes. Tu sais, je serais curieux de revoir mes matchs. Tu sais que le monde était « wow », sûrement que moi, je ferais « ouais », tu sais, c'était correct, là. Mais quand je suis arrivé, à Granby, il y a un midi qu'il annonce l'impro à l'intercom. Et là, je m'en vais voir ça, et c'est fou, il y a 400 personnes dans l'auditorium.
Wow.
Et quand les joueurs, ils rentrent, ils sont acclamés, là, c'est
l'équipe de hockey.
Ouais, le monde capote, là, j'entends des... Il y a Carl Gagnon, qui est devenu mon capitaine d'impro, Violette Pie. Cool. Puis il y avait Jean-François Ruel aussi, Yes McKen de...
Wow! Des feux d'Adobe, pas un feu, mais qui était avant les Adobe's, puis maintenant...
Exact. Et là, je vois les gars, et comme ils sont acclamés, c'est comme c'est malade. Là, j'écoute et je les trouve bons, mais tu sais, j'ai jamais connu ça, des gros rires comme ça, parce qu'il y a 400 personnes, c'est pas la même affaire. Puis là, je me dis, je peux pas... Je peux espérer être là, mais je peux pas, je suis pas de ce calibre-là. Finalement, je m'en vais faire le camp d'impro qui se passe encore là dans un local. Et là, le manque de confiance ressurgit. Je fais mon impro. Tu vois, je pense que c'était 2-3 impro qui font faire en local. Puis là, je joue avec Carl. Et les gars, ils rient vraiment. Ils rient. Mais tu sais, je suis comme, ah, ils rient de moi. Là, parce que je m'étais pas trouvé bon. Je trouvais pas que j'avais montré qu'est-ce que j'étais capable de faire. Et au final, Carl Gagnon, finalement, m'a pris dans son équipe. Et premier match d'impro, là, c'était une vraie joke. Tout le monde voulait jouer. Tout le monde voulait faire de l'impro à cette école-là parce que tu devenais comme une vedette de l'école.
Puis aussi, jouer devant 400 personnes, c'est un trait d'adrénaline hors du commun. Là.
Mais c'est ça. Premier match, j'arrive et je me plante. Là, mais me plante. Personne. Je fige. Je me souviens là, qu'on me dit juste... c'était quoi? Carl, il me dit, mettons... hey, excuse, t'as-tu vu les morphines? Je travaille dans un café et pas juste comme... Non, je les ai pas vus, pas oui, je les ai vus. Ça aurait pu être juste ça, c'est pas grave si je punch pas. Je suis parti sur le banc. Wow. Genre, j'ai choqué à ce point-là. Puis je suis parti m'asseoir. Puis là, il était comme, bon, voyons. Puis là, il fait une joke, genre, c'était sa première journée ou whatever, tu sais. Mais, et là, il y a un malaise, gros malaise. Et là, je veux plus jouer de la game. Et tout le monde dans les corridors, c'est comme, hey, t'es nul à chier. Puis tout le monde. Et là, je me dis, ah, Colin.
C'est ton refuge.
C'était ça que j'avais. Mais finalement, l'autre match d'après, ça a été tout le contraire. L'autre match d'après, j'ai réussi à faire. C'est là que j'ai découvert, je m'alignais là-dessus. C'est qu'il y a une impro qui était catégorie stand-up. Là, moi, je savais pas c'était quoi. Je demande à Carl, c'est quoi ce stand-up? Il fait, ben, dans le fond, tu sais, comme les humoristes, ouais. Ben, tu sais, les humoristes, quand ils font du stand-up, ils parlent au public, ils font des jokes. Je fais, OK, je veux y aller. Mais là, lui, tout ce qu'il se souvenait, c'est le gars qui te chauffe complètement. Il fait, t'es sûr? Je fais, ouais, je suis sûr. T'es certain? Je suis certain, Carl. Là, j'y vais et finalement, ça fonctionne, mais genre big time. Là, je sors vraiment des bonnes lignes et tout. Puis je gagne le vote presque à l'unanimité. Fait que là, tu sais, mettons, moi, je suis rouge, l'autre bord, c'est vert. Je vois comme 398 cartons qui sont de ma couleur. Je suis comme, oh mon Dieu, OK. Puis là, ça a été le jour et la nuit que...
Tu tombes en amour.
Ouais, ben puis là, tout le monde était comme, hey, t'étais bon, man, c'était drôle. Puis c'est là que j'ai compris aussi que je fais... Là, je me souviens que j'ai googlé le soir comme stand-up. Puis là, j'écoutais du stand-up. Puis je savais pas c'était quoi. Puis là, j'ai fait... Là, je voulais savoir si qu'est-ce que j'ai fait vraiment, c'était du stand-up. Je comprenais pas.
Oh, génial!
Fait que c'est comme ça que j'ai découvert le stand-up, puis qu'à l'école, je me suis fait des amis et tout. Puis c'est ça que je me suis lié d'amitié avec Jeff Ruel. Là, c'est devenu mon partenaire de coloc de casier durant mon secondaire.
Super comme histoire à plein niveau. Ah, c'est vraiment un appel. C'est drôle parce que moi, j'aime beaucoup le basketball. Okay. Il y a des joueurs africains, c'est comme ça qu'ils découvrent qu'ils sont bons au basketball. Ils jouent au soccer toute leur vie.
Okay.
Puis là, il y a une petite croissance. Puis il y a des gens qui essayent le basketball puis ils deviennent génial. Il y a un joueur, Pascal Siakam, il a commencé à jouer à 12 ans. Il s'est vu qu'il n'y avait pas d'infrastructure de basketball, ça passait quoi. Puis il y avait un talent pour. Ah, c'est beau,
c'est
ça.
Nice.
C'est vraiment, vraiment beau. Waouh! Et fait, au début, c'était quoi tes amours, le stand-up? Est-ce que comme moi, tu downloadais plein de numéros sur Napster, LimeWire?
Ben, je...
Ouais, pas oui. Je voulais pas vous interrompre.
Non, c'est...
Oh, on s'en fout d'elle. Oh. Ah, ça, elle sera coupée au pire. Okay. On fera du chat contre chant. C'est pas énervant.
Comme tu veux.
Je vais répéter ma question, ça te dérange-tu?
Ouais, non, vas-y.
Ok. Ouais! Fait que c'était quoi tes. Qu'est-ce que t'écoutais comme stand-up? Est-ce que comme moi, tu downloadais sur LimeWire des numéros de stand-up et des.
Ouais, mais je parlais pas très bien anglais, en fait. Je comprenais pas, donc c'était plus du stand-up québécois que j'écoutais. Mais t'en trouvais du québécois sur.
Ouais, ou... je trouvais Yvon Deschamps, j'ai eu une année où j'essaie d'écouter tous les monologues d'Yvon Deschamps qu'il y avait sur LimeWire.
Ben, moi, j'achetais les DVD. Yvon Deschamps, justement, j'avais. Hey, y a-tu du matériel, cet homme-là?
C'est incroyable.
Ça n'a pas de sens. J'avais les DVD, j'écoutais.
Il se cassait les dents avec des sujets extrêmement difficiles. Tu sais quoi? Moi, je parlais de suicide pendant 11 minutes.
Mais par exemple, il n'y avait pas le souci non plus d'être efficace.
En fait, il est efficace.
Ah, il est
pas de rire. Mais je pense qu'il n'y a pas le souci de. Il faut que ça arrive au chaque 30 secondes.
C'est ça.
Mais il y a un souci d'efficacité, de trame narrative.
Ah oui, oui. Ah non, non, OK. Niveau de l'écriture, c'est vraiment impeccable. Qu'est-ce que je voulais dire? C'était efficacité comique, justement.
Ils n'ont pas ri, il faut changer
ça. Ils suscitent l'intérêt pendant tout. Tous ces numéros suscitent l'intérêt, puis il est.
Mais moi, je me suis toujours demandé, il y a sûrement des gens qui ont la réponse. Je crois qu'il ne rodait pas. Lui, il cassait du matériel à la place des arts. C'est absurde.
Ah ouais, hein?
Il écrivait, mettons, peut-être que je me trompe, il pouvait écrire 1h20 ou 1h30, puis à la place des arts, puis il y avait un band comme ça entre les numéros tristes, puis il y avait une toune, puis il disait les fesses, puis il parlait du syndicalisme. C'est complètement fou.
Ouais, non, vraiment. Mais en même temps, je sais pas si à l'époque, ça existait tant de rodage. Il devait pas non plus. Il y avait-tu des critiques? C'était jamais capté non plus? Je sais pas.
Oui, moi, je voyais à Art TV. Moi, j'ai découvert Yvon Deschamps à Art TV.
OK.
Et c'était capté de manière très, très, très cinématographique.
Okay.
Il y avait des plans où la caméra était très, très, très près de lui. C'était pas filmé comme des stand-up maintenant.
OK.
C'était vraiment, vraiment, vraiment beau.
Ah,
c'était
ouais.
Particulier. Des fois, il y avait des c'était les instants 10. Fait que des fois, il y avait des transitions. Lui dans le coin de l'écran, le tranquillement pas vite dans l'autre coin, il apparaît, lui disparaît, lui apparaît, c'était joli. Ah ouais.
Ça c'est nice.
Vu que ce qui est le fun quand tu sais pas ce que tu fais, mais t'essaies des affaires.
Ben oui, oui.
C'était filmé comme. Ben, c'est drôle parce que vu que c'est les incendies, c'est special, ces spectacles étaient filmés comme un spectacle de corbeau.
Ouais.
C'est tout ce qu'il connaissait. Fait que c'était on filme Harmonium comme on filme Yvon Deschamps.
Ouais, c'est vrai. Ben ouais.
C'était vraiment chouette. Alors, fait que tu tombes en amour avec le stand-up.
Ouais, ben j'ai. C'est pas tout qui me parlait, honnêtement. J'essayais d'écouter beaucoup les galas juste pour rire parce qu'ils étaient. Je pouvais les.
Les taper.
Ouais, les enregistrer. Je les louais sur Indigo. J'écoutais les entrevues et tout des gens après à juste pour rire en direct. Mais je me souviens que. Je nommerais pas personne, là, mais.
Ça te correspondait pas.
Ça me parlait pas tant que ça. Puis j'ai découvert Frankie. Tu sais, Frankie Laff. Pour ceux qui ne savent pas, un gars qui fait du liner. Comme...
Extrêmement efficace.
Ouais, il est super bon. Puis moi, je connaissais pas ça. Puis là, j'ai fait « Oh shit, ça c'est drôle en salle » parce que je trouvais en fait souvent, j'avais l'impression que c'était beaucoup du cabotinage, puis il n'y avait pas beaucoup de monde qui allait vraiment dans l'imaginaire. Tu sais, il n'y avait pas beaucoup d'idées dans le stand-up que je voyais dans les galas. C'était beaucoup de l'anecdote, puis je dis pas, c'est correct là, qu'il y ait des gens qui aiment ça, mais moi...
Ça correspondait.
Non, c'est ça, moi ça me parlait pas, puis j'étais comme « Colin, c'est bien weird que... » Il n'y a pas un humoriste qui est comme... J'avais pas l'impression qu'il y avait beaucoup d'humoristes qui étaient créatifs.
Mm-hmm.
J'étais comme, OK, ils ont besoin de vivre de quoi avec leur blonde. Puis après ça, ils comptent leur affaire avec leur blonde qui échappe le lait à terre. Là, je suis comme, mon Dieu, comment ça que c'est pas des... Puis là, à ce moment-là, moi, c'était que l'impro, puis c'était les comédiens, comédiennes qui m'intéressaient. Mais j'étais comme, on dirait qu'ils sont plus créatifs. Ça, je voyais. J'étais comme, en impro, il me semble qu'il y a bien plus un monde. On peut aller dans plus de zones. Puis là, j'ai découvert Frankie. Puis je fais, oh, chaque ligne est comme un univers. Puis ça m'avait vraiment. Je me souviens vraiment que j'avais pogné de quoi quand je l'avais vu. Puis après ça, évidemment, j'ai découvert les Denis Drolet, Jean-Thomas Jobin. J'ai fait, OK, il y a des trucs qui sont ailleurs. Puis, ensuite de ça, j'ai commencé à écouter du stand-up anglophone. J'ai découvert Tim Minchin et The Hazard.
Cool.
Puis ça me faisait triper. Puis j'avais l'impression que j'étais comme entre les deux parce que j'aime ça me servir de mon imaginaire pour donner des exemples de qu'est-ce que je veux dire. Mais j'ai pas envie non plus d'être un personnage. Tu sais, je dis quand même des affaires que je pense pour de vrai, mais avec des images qui sortent de l'ordinaire. Puis on dirait que c'est juste que souvent, vu qu'on n'est pas habitué justement ici de chercher. Ben là, de plus en plus, la nouvelle génération, je trouve que justement, tout le monde a un souci au niveau de la créativité. Mais avant ça, on dirait qu'on m'associait à de l'absurde parce que c'était comme, mais comment qu'il a pensé à ça? C'est comment, mais pour, tant qu'à moi, c'est la base de n'importe quel artiste, être différent. Mais on dirait que les humoristes, on a tellement été habitués de voir le même type de personne qui faisait de l'humour que dès que quelqu'un était différent, c'est comme, ah ben lui, c'est absurde.
Ben moi, je trouve ça particulier de quand j'étais plus petit, la plupart des humoristes, c'était des gens, c'était les gars les plus populaires, c'était les gens dominants. C'était vraiment, vraiment cool, il était beau, il était bien habillé, il avait toujours la phrase assassine. Une fois, quand j'ai découvert Woody Allen, j'ai fait « Ah! »
Ouais.
Il y a des gens bizarres, pas bien dans leur peau, qui peuvent faire ce métier-là. Et quand j'ai découvert le José Hood, ça, c'est vu qu'il me ressemblait physiquement,
okay.
Vu qu'il parlait vite et vu qu'il était névrosé, du moins moi, je trouvais qu'il était névrosé à l'écran. Là, je tombais en amour avec ça. Mais avant, je trouvais « Ah, c'est les gars cool de ma classe, ça m'intéresse pas. » C'est les gars...
Ouais, mais en même temps... Oui, mais oui puis non, parce que souvent, vouloir trop être cool, je trouvais que c'était ça les humoristes, puis ça montre que t'as déjà été loser.
Je comprends.
Tu sais, hey, les pantalons de cuir, la boucle d'oreille, tu fais « Ah non, c'est parce que t'as vu quelqu'un à ton secondaire qui avait ça, puis toi, c'est « Ah, c'est qui est nice », puis toi, tu te venges rendu à 22, 23 ans, ça va être moi, ce gars-là. C'est ça la vérité, là.
Moi, ce qui me fait rire... C'est la plupart des humoristes de notre âge qui rient des pantalons en cuir et qui ont des boucles d'oreilles et qui ont toutes, par contre, des affaires fluo et des espèces de sacoches sur le côté. Tu fais comme, tu sais que dans 10 ans, ça, on va...
C'est ça, je me dis, la main. Tout ce qui est à la mode, trop à la mode, tu fais, ça va mal vieillir.
Moi, c'est drôle de mettre mes bas dans des sandales. C'est si drôle que ça, même.
Ouais, c'est ça.
C'est si hâte que ça, à ce point-là.
Mais surtout que c'était, on dirait que la mode est devenue l'audace et la confiance.
Mm-hmm.
Donc, tout ce qui est. Un petit peu différent, mais que toi, t'oses le porter. Mais là, on est rendu, c'est plus punk là, comme démarche, là, parce que tout le monde porte le même type de lait.
Mm-hmm. Je suis complètement d'accord. Et souvent, les homosexuels puis les noirs ont fait ça il y a 4 ans. Fait que t'es en retard.
Aussi,
ça peut être audacieux, savoir les couleurs qui s'agencent, puis t'intéresser à c'est quoi un bon tissu. Plutôt que, juste mettre un truc fila, puis je vais mettre du foubou.
Mais je faisais un gag l'autre jour au Rose avec contre Alex Bizaillon. Puis, je trouve ça résume. Mais je veux pas parler, là, c'est vraiment une joke. Là,
oui, c'est une joke.
Je veux parler contre tout le monde qui s'habille un peu funky. Mais moi, j'ai tout le temps aimé m'habiller assez sobre. Puis, parce que je me dis. Ben, surtout, moi, dans mon cas, à moi, sur scène, ça m'aide. Parce que depuis que j'ai changé de look un peu, j'ai l'air plus standard, normal.
T'as l'air d'un gars à banque.
C'est ça. Je peux aller plus loin dans mon dans mes trucs parce qu'ils font comme il niaise, il joue fucké. À la place que comme avant, qu'on me dise comme lui, il est weird honesty, tu sais.
Mm-hmm.
Fait que. Mais qu'est-ce que je disais avec Bizarion? Je disais juste comme toutes les personnes pas de charisme, tes vêtements sont plus colorés que ta personnalité. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de gens que c'est ça que tu fais. Tu fais comme OK, tu t'habilles funky. Tu sais, quelqu'un qui s'habille trop funky, je me dis. Ah, il est plate. C'est sûr qu'il est plate.
Par contre, il y en a que c'est pour ça que c'est, je trouve ça intéressant. Il y en a qui veulent montrer. Là. Je sais que je pense que c'est Alexander McQueen, qui est un grand designer. Lui, il était très, très, très gêné. Puis c'est comme ça qu'il est sorti de son cocon. Il y avait du linge vraiment, vraiment fucked up pour montrer. Hey, en passant à l'intérieur, il se passe plein de choses. Ça peut être intéressant des deux côtés.
Oui, oui, mais tu sais, j'ai généralisé aussi.
Oui, oui, c'est une joke.
C'est ça.
N'importe quel joke, si tu, elle peut être déconstruite en 30 secondes. Là. Ça me fait beaucoup, beaucoup rire, comme on le dit. En passant, ta blague, Thomas, manque de nuances. Effectivement, une pensée de 12 mots ne résume pas l'existence.
Mais non, c'est ça.
T'as raison.
Ouais. Mais nuancer, c'est pas drôle. T'sais.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Non, mais tu sais, j'exagère, là, mais en même temps, il faut que tu sois tranchant quelque part. Là, parce que sinon, qu'est-ce que tu veux apporter? C'est ça.
Non, c'est enlevé, oui.
Faut que tu fasses des statements à un moment donné.
C'est ce qui est dur des fois en télévision, tu veux construire des personnages, puis tu te fais dire par soit des réseaux, des boîtes de production. Pas très nuancé le personnage. Tu fais, ouais, pas vraiment, c'est vrai. Et lui, il est souvent fâché. C'est souvent ça son énergie.
Ouais.
Quoi, des fois, quand tu réussis à nuancer, ça peut marcher, mais bref. Ouais, alors ton premier show, c'est quand?
C'était-tu à l'école? Non, c'était dans un Mike's à Cowansville.
Excuse-moi.
Ouais, j'avais vu sur un apron qu'il y avait un concours d'humour.
Génial.
Puis j'ai fait, moi, aller essayer. Puis j'avais ramassé comme les gags que j'avais fait en impro qui avaient fonctionné.
Ah, t'es noté?
Ouais, quand c'était les liners. Après avoir vu Frankie, à chaque fois que je faisais une impro, que je me disais, hey, ça, c'est un liner, je le notais.
Génial.
Fait que là, j'avais été voir mes notes, j'avais environ 15 liners. Puis là, j'ai rajouté là-dedans une couple d'idées. Puis, ouais, j'ai été faire le concours. Puis ça s'était bien passé, j'avais gagné.
Yeah! Félicitations!
Ben, merci, mais je pense...
Premier show, une victoire!
Oui, mais en même temps, je pense que, tu sais, j'avais 16 ans. Ah. J'étais arrivé en autobus.
Gagné pareil.
Oui, mais... Ah, mais moi, j'ai de la misère avec le concept des concours, tout court. C'est tellement subjectif, là. Puis j'haïs ça, mais...
Je suis d'accord avec ce que tu dis. L'exception qui confirme la règle, c'est le concours d'humour à Cowensville dans un Mike's quand t'as 16 okay. ans. Ça, c'est différent. Les concours d'humour, ouais, mais à 16 ans, mais... il faut que tu montes sur une scène à Cowensville.
Mais je pense qu'ils ont fait le bon move, par exemple, de peu importe les raisons, ça m'a donné la confiance d'y retourner. Puis, je t'expliquais un peu mon histoire familiale et tout, c'était comme je venais de me découvrir une passion, puis... Ouais, donc ça a vraiment été positif pour moi. Là, je voulais faire de l'humour. Là.
Ah, génial.
Ouais.
Et comment t'as commencé ça? Comment t'as fait? Comment concrètement tu t'es dit, bon, ben, je veux devenir humoriste? Go.
Ben, c'est vraiment à partir de là. Et au-delà de ça, ben, moi, c'est sûr que je me suis pas posé tant que ça de questions. J'ai pas de modèle de carrière autour de moi. Là. Tu sais, ma mère, c'est bien-être social. Ma sœur a pris un peu le même pattern que ma mère. Ça a été très difficile. Mon père, j'avais aucune idée. Fait qu'il y avait personne qui m'entourait qui avait des jobs. Fait que moi, là, c'était très flou. J'avais commencé à travailler dans une épicerie, mais ça a duré 2 mois qu'à un moment donné, moi, me faire crier après, j'avais mal placé les pois chiches. J'ai juste parti. Puis, tu sais, on m'appelait, puis t'es où? Je suis parti, le gars, il m'a gueulé après. C'était pas le fun. Mais là, mais c'est pas de même, ça marche. Puis là, on me disait, t'es quoi, c'est pas de même, ça marche? Puis ça me choquait, moi, de me faire dire, c'est pas de même, ça marche? Tu sais, je comprenais pas. Ça peut marcher de même, moi, ça me convient pas, je m'en vais.
Tout à fait légitime.
C'est ça, puis... fait que moi, ça rend, j'avais comme pas de plan, mais j'étais comme, j'aime ça, faire ça, m'en faire ça. Puis, tu sais, tout le stress que les gens ont d'habitude, après ça, les études, ça va-tu fonctionner, mon plan, puis là, j'ai un plan B. Là, le monde me parlait d'un plan B, j'étais comme, ben non, tu sais, m'en faire ça, c'est tout. Mais tu sais, moi aussi, je me disais, c'était pas que je me disais, c'est sûr, à 100% que mon réussir, c'est je me disais, si je fais 100$ dans une année, d'après moi, c'est assez. Tu sais, j'avais aucune idée.
T'avais pas de notion.
Ma mère, ouais, c'est ça. Comme, ma mère n'a même pas de compte de banque. Elle allait faire échanger ses chèques au pawn shop. Fait que je savais pas comment ça fonctionnait, là, la
vie économique.
Ouais. Ça, aucune idée.
Ah, mais ça, c'est cool. C'est vraiment une... Mais tu l'as transformé en force, mais tu l'as vraiment... C'est une force dans ton cas. Parce que t'as pas d'attente. C'est super, ça.
Ouais, ben en plus de ça aussi, j'ai eu un enfant, moi.
Ouais, qu'est-ce qui s'est produit? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, parce que tu penses pas que c'est le plan, là? Ou peut-être, je l'ignore.
Non, non, c'était pas le plan du tout, là. C'était pas une adoption ou...
Qu'est-ce qui s'est produit?
Dans le fond, j'avais une copine à l'époque, Jolène, qu'elle s'appelle. Puis, dans le fond, c'était première blonde. On s'est quitté. Puis, quand on s'est revu, on a couché ensemble, on s'est pas protégé. Puis, ça a été pas mal ça. Tombé enceinte, on n'était plus ensemble. Moi, j'ai dit, écoute, si tu décides de le garder, il va prendre mes responsabilités. Mais moi, c'est sûr que je penche. Puis là, finalement, elle a décidé de le garder. Mm-hmm. On a fait de notre mieux comme ensemble. On a essayé de déménager ensemble tout quand il est né. Mais, tu sais, ça fonctionnait pas. Là. On est vraiment les antipodes, moi, puis elle. Là, c'était impossible qu'on redevienne un couple ou whatever. Mais voilà.
Et tu... OK, comment t'as appris que t'étais père? C'était comment? Par téléphone, face à face?
Non, face à face.
Est-ce que tu t'y attendais ou elle est sortie? Non. Comment c'est arrivé? L'annonce.
Ben, elle me l'a dit quand elle commençait à avoir un ventre. Fait que quand ça a cogné chez nous, puis là, j'ai fait « Oh, OK. » Tu sais, tout de suite, j'ai catché de quoi qu'elle venait me parler. Là.
Ah oui.
J'ai pas fait comme t'as mangé 3-4 hot dogs. Tu sais, j'ai catché, là. J'ai compris qu'elle portait la vie.
Oui.
Je l'ai compris.
Et la tienne?
Ouais. Puis, ouais. Fait que j'étais... Mais moi, en même temps, tu sais, mais comme que je dis, ma vie était tellement pas placée. J'avais pas. J'ai jamais eu. Ben, là, maintenant, oui, je pense que.
T'as une structure aujourd'hui, mais à l'époque, t'avais zéro structure.
C'est ça, j'allais dire. Maintenant, je comprends, puis je pense que ça fonctionne bien, ma vie, puis j'ai compris plein de choses, mais il a fallu que je partais de loin. Mm-hmm. Il y a personne qui m'a pris par la main, qui m'a montré des choses.
Ou des collègues qui ont sûrement fait ça plus tard, ou des blondes, ou des.
Oui, oui, ben ouais, mais tu sais, c'est différent, là, parce que même des fois, c'est un peu dans le reproche, parce que comment ça, tu sais pas ça? Puis là, il faut que tu pars de loin, puis là, tout expliquer, de faire... Hey, moi, je me suis dit, première chicane avec ma blonde quand j'avais genre 24 ans, un moment donné, c'était genre mettre des affaires dans le lave-vaisselle. Puis elle me dit, voyons, tu mets les bols là! Et je me mets... Ah, tu me parlais si je pleurais des fois, c'est rare, mais ça, tu vois, ça, c'est une fois que j'ai pleuré, parce que la façon qu'elle me l'a dit, ça m'a tellement fait mal de pas savoir ça. Puis je suis comme, tout le monde sait ça, vous mettre les bols! Puis là, c'était comme, moi, j'étais... J'ai comme, comment ça, moi, je suis bien niaiseux de pas savoir ça? Puis là, elle fait, hey, je m'excuse, je vais pas... Puis là, c'est parti de là, de faire, ben, écoute. Puis là, j'ai expliqué mon histoire de vie. Puis là, elle fait, hey, mon Dieu, avoir su... Tu sais, on s'en crisse des bols, là. C'est ben pas oui, grave, ben oui. Là, mêler comme tu veux. Mais fait que c'est juste pour dire comme ça, c'est juste une petite affaire déjà que j'avais pas, puis ça me rendait shaky. Fait qu'imagine les choses que je gardais pour moi que je savais pas, là. Fait que, ouais, mais au fil du temps, c'est en observant beaucoup. Ça a été sans le dire, mais observer. Puis là,
est-ce que des fois, tu sais, on parle souvent du syndrome de l'imposteur. Les artistes ont dit, j'ai le syndrome de l'imposteur. Toi, des fois, est-ce que tu sens que le syndrome de l'imposteur, mais dans des choses banales, c'est-à-dire, comme dans une relation amoureuse ou comment fonctionne le moins. OK.
Ouais, sur plein d'affaires. Mais en même temps, je pense que c'est ça qui a, dans le fond, exacerbé mon sens de l'observation, là, par exemple. Là.
Ah, parce que tu prends rien pour acquis, c'est vrai. Ouais. C'est génial, ça.
Fait que je pense que à la base, qu'est-ce qui a développé par la bande mon sens de l'observation, qu'ensuite de ça, je me suis servi pour faire de l'humour. À la base, c'était vraiment pour vivre. Là, je faisais, OK, c'est comme ça, OK, c'est le même. Quoi. OK, puis là, je regardais... Tu sais, je regardais les ordinateurs de mes amis. Quand ils étaient aux toilettes, je regardais dans Recherche ordinateur, curriculum vitae. Puis là, je regardais, OK, c'est le même qu'on fait ça. Tu sais...
En secret!
Ouais, en secret, mais ça me gênait trop. Ça, je te dis, c'est pour ça que je te donnais l'exemple du lave-vaisselle. Ça me gênait. Donc, imagine des... Tu sais, vu que ma copine apprenait pour acquis, je faisais
ça. La première fois que tu as dû avoir un compte en banque, tu savais pas?
Non, j'ai aucune idée.
Ah, wow! Comment c'est arrivé, ça, comment ton premier compte en banque?
C'est Sam Tétro, un autre Maurice.
Bien sûr, ben oui, ton grand ami, oui.
Ouais, c'est ça. Quand,
très talentueux en passant.
Quand je suis arrivé à Montréal, c'était avec lui. Je l'avais rencontré encore là dans un match d'impro à Saint-Hyacinthe. Il était au cégep, lui. Puis j'ai dit, hey, je veux. Après le match, moi, j'avais pas d'endroit où dormir. Puis j'ai dit, hey, c'était le fun, la mix qu'on a faite ensemble. Penses-tu que je peux dormir chez vous? Puis il m'a dit, bah ouais, pas de trouble, trouvais ça drôle, tu sais. Puis là, finalement, j'ai dit, moi, je veux déménager à Montréal pour faire de l'humour. Puis il m'a dit, ah ouais, ah, c'est bien cool. Puis là, ça l'a allumé. Il fait, hey, moi tout. Puis on a pogné un appart, il m'a aidé, il a payé mon premier mois de loyer. Puis là, j'ai dit, moi, t'as remettre ça. Je me suis trouvé un job à Montréal. Puis c'est lui. Là, j'ai tout expliqué mon histoire, tu sais. Puis là, il a fait, ah ben, moi, t'as aidé. Puis ouais. Parce qu'au début, moi, j'allais, comme maman, j'allais au pawn shop, j'ai changé mes chèques, puis je mettais mon argent dans le congélateur. Lui, il catchait pas, là, il m'a dit à un moment donné, hey man, c'est-tu toi l'argent dans le congélateur? Je dis, ouais. Mais pourquoi? Je dis, ben, je sais pas où mettre mon argent. Mm-hmm. Puis là, il m'a dit, mais je comprends pas, tu n'as pas de compte de banque? Je fais, non. Je sais pas comment ouvrir un compte de banque. Puis là, j'ai fait, ben, il faut tes pièces d'identité. Là, j'avais pas de pièces d'identité. Non. J'ai fait venir mon baptistère. J'ai été. Après ça, quand j'ai eu mon baptistère, j'ai été chercher ma carte d'assurance maladie.
Ok, tu partais d'extrêmement loin.
Rien.
T'avais absolument.
Rien.
Oh, wow! Ouais. aux yeux de l'État, t'existais pas.
Non.
Je reviens toujours à ça, mais la plupart des joueurs de football ont ce processus-là.
C'est genre l'université qui est...
C'est pas l'université, c'est des coéquipiers. Parce que
j'avoue, ils sont même pas à l'école.
Ben, ils sont à l'école. C'est pas une question d'université, c'est qu'il y a des coéquipiers, ben, ils viennent du même milieu. La plupart des joueurs de football, c'est des joueurs qui viennent. C'est des gens qui veulent se sortir de la pauvreté. Il y a personne qui aime aller courir au maximum de leur force et rentrer dans un autre être humain. Personne n'aime ça. C'est pour te sortir de la dèche.
Ouais.
Et là, quand tu rentres dans une équipe de football, les vétérans t'expliquent comment ça fonctionne. C'est quoi un compte en banque? Où vivre? Comment acheter une maison? Comment avoir des papiers? Comment avoir des papiers? Tout ça.
Okay.
Souvent, c'est les vétérans qui s'occupent des recrues comme ça.
Okay.
Quand tu leur parles, la plupart des joueurs, leur premier chèque, ils vont au compte en comptant. Ils ne savent pas comment faire. Puis ils mettent il y avait un joueur, il ne savait pas. Il y a bien des joueurs, souvent, ils se font appeler par les comptables de l'équipe. Ils jettent leur chèque dans leur char. Ils savent pas qu'un chèque, c'est de l'argent qu'il faut le transformer. Ils savent pas.
Okay.
C'est le comptable qui doit leur montrer.
Ben, j'avoue que moi aussi, je me souviens, mon premier chèque, tu sais, le talon, tout, je comprenais rien. Mm-hmm. Je pense que j'ai déjà fait l'erreur là, de garder le talon puis jeter le chèque. Là. C'est sûr que j'ai déjà fait ça. Là.
Mais s'il y a des gens qui ont une éducation financière qui l'ont fait, c'est clair.
Ouais, c'est ça, exact.
Waouh! Et quand tu arrives à Montréal, je pense que c'est dès le début, tu t'es trouvé des spectacles. Comment ça s'est
produit? Pas en route. J'ai fait en route mon premier gala. Puis, ouais, c'est ça, j'ai été chanceux.
Non, j'étais talentueux, bien sûr.
I guess, là, je sais pas, mais ouais, mais ça a bien été, puis c'est là. Ah oui, mais on t'a vu en route, fait que là, le monde, il me prenait pour un spectacle. Tu sais, du monde comme Frank Grenier, il me donnait des shows. Fait, ben ouais, tu sais, on t'a vu en route, ça fonctionnait bien. C'est sûr qu'au début, c'était plus difficile parce que, tu sais, j'ai quand même un style très à moi.
Particulièrement il y a 10 ans.
Ouais. Ben, je sais pas particulièrement ou c'était juste comme moins bien maîtrisé. Maintenant, j'arrive, je pense, avec une certaine confiance. Fait que même si c'est autant. Mais je pense aussi que c'est plus accepté ce type d'humour-là maintenant. Là. Je veux dire, ça l'a. Grâce à En route, on en a vu beaucoup, tu sais, des humoristes de OK, il y en a beaucoup qui ont une couleur différente. Là. Il n'y a pas juste les Denis, il n'y a pas juste Jean-Thomas. Il y a plein de styles. Parce qu'avant ça, je me souviens que j'arrivais avant En route, là, j'arrivais dans un bar. C'était vraiment comme ça, c'est quoi ça? Tu sais, ça se pouvait pas. Puis pourtant, moi, aujourd'hui, avec tout ce que je vois comme humour, je me trouve pas si fucked up que ça. J'ai un souci quand même d'être authentique, puis je pense que ça fait partie de moi de penser un peu en diagonale puis d'être original. Mais je veux dire, j'essaie pas d'être fucked up. Là. Il y en a du monde maintenant que eux, ils ont le désir qu'on les comprenne pas. Puis je fais, ben là, c'est bien plus weird que moi, ça. Là,
et ce qui me ferait dans ton style, j'ai toujours pensé, je veux pas te dénigrer ou rien, c'est très standard. C'est-à-dire qu'il y a une blague, tu fais des blagues, tu fais toujours des blagues d'observation sur des choses qu'on connaît. T'es loin de. T'es super accessible.
Ben dans ma tête aussi, mais en fait, tu sais, il y a beaucoup de blagues qui sont pas des blagues mécaniques, qui sont pas des formules, mais je dis des trucs, des images que si t'es vois, tu trouves ça drôle. Ouais. Mais il y a des gens, par exemple, qui sont pas capables de voir ces images-là. Je donne juste comme exemple mon truc là, que je parle des végétariens. Puis je dis le monde qui mange du poisson, le monde qui se dit végétarien puis qui mange du poisson, je dis « Ah ben toi, quand c'est dans l'eau, ça compte pas. Fait que toi, un cochon qui se baigne, c'est correct. » Mais ça, je sais, ça paraît pas « fucked up », tu sais, mais il y a du monde, vraiment. Parce que c'est pas dans la formule de « joke ». Il y a pas une « joke » après de « c'est comme si… »
Oh non,
c'est ça. Moi, j'aime ça. Si l'image est drôle, selon moi, ben ça va être ça, la « joke ». J'haïs les… Moi, je trouve la chose la moins drôle au monde, je trouve que c'est une « joke ».
Je comprends.
Je trouve pas ça drôle, une « joke ». Fait que je veux pas que les gens puissent répéter mes affaires. Je veux que ça soit comme « mais c'est drôle ça », puis que quelqu'un fasse… Mais c'est quoi qui est drôle? Mais Chris, c'est drôle, le cochon qui se baigne, c'est tout, tu sais. Mais je sais qu'il y a des gens qui font OK, mais je l'attends, là, la joke, plus, il n'y a pas une règle de trois, il n'y a pas. C'est ça. Fait que moi, c'est ça que j'aime partager.
C'est beaucoup plus surprenant. Le but ouais. ultime d'une blague, c'est surprendre. Ouais. C'est beaucoup plus surprenant si tu n'entends pas la musique.
Ben, moi, puis oui, puis comme que je dis, moi, en stand-up, des fois, je les entends. Je vois que c'est efficace, mais comme que je dis, mettons, après ça, une comparaison, j'ai entendu ça mille fois, cette mécanique-là, ça m'allume zéro.
Moi, tu as un impact sur comment je suis sur scène. Une fois, les deux, on faisait la première partie de Mike Ward.
Ouais.
Et j'étais très nerveux et j'étais très statique. J'étais très, là, je parle, et là, c'est le temps de la punchline. Et tu l'as souligné, tu as fait « Ah ouais, il est auteur, ça paraît pas. » Puis j'ai fait « Ah, c'est vrai! » J'ai une manière très, très saccadée de parler, puis j'ai essayé de défaire ça depuis. J'ai réalisé ça. Ah, ouais. C'est vrai.
Ah, mais je faisais juste une joke.
Puis j'ai trouvé très, très, très drôle. Puis la raison pourquoi je faisais ça, c'est de l'anxiété. C'est pour m'assurer qu'ils rient, je vais leur dire « C'est le moment de rire, gang.
Okay, »
C'est le moment de rire, gang. Mais c'est pas ça le but.
Ah, c'est drôle.
Le but, c'est pas de vous dire « C'est le moment de rire », c'est de les faire rire. Ça m'a tout débousselé. C'est une bonne chose.
Mais moi, je fais le contraire, par exemple. J'aime ça que dire mes affaires, puis ça va rire. Moi aussi, même dans mon show, c'est tout le temps les mêmes blocs, ça va finir par rire, mais jamais exactement aux mêmes endroits. Parce que moi, ce que j'aime partager, c'est mes idées, pas mes jokes. Fait que j'aime ça partir sur, exemple, j'ai un angle.
Ouais, je sais pas si tu connais l'écrivain Kurt Vonnegut, ou Kurt, c'est un grand écrivain, puis il disait, moi, l'intrigue, je m'en fous. Okay. J'en choisis une au hasard. ce qui m'intéresse, c'est mes idées. Okay. Je choisis une intrigue qui plaît, puis ensuite, je mets mes idées dedans. L'intrigue, c'est dans le véhicule.
OK.
T'adorais ce homme-là, puis il est très, très, très imagé. Il est très...
OK, mais ouais, je vais regarder.
T'adorais ce homme-là, je suis sûr. Convaincu.
Cool, mais ça ressemble, ouais, c'est...
Il a déjà écrit un roman où un... il est dans le... amené lui-même apparaît, puis il dit ce roman-là marche pas, puis il s'en va.
OK, c'est
il est vraiment, vraiment cool.
Ah, nice. Mais, ouais, c'est ça, j'ai juste dit, mais j'aime ça, moi, au contraire, parler, puis pas avoir l'air jamais de dire une joke. Comme ça, tu sais, je veux dire mes affaires comme si ça m'habite, puis... Puis j'aime ça aussi, pas que ce soit comme « Hey, je viens de faire une joke, puis là, ça rit pas. » Tu sais, je suis pas un Looney Tunes, là. J'ai pas envie de, comme « Hey, tu sais, je fais juste... » Moi, j'ai juste envie de parler, puis à un moment donné, comme les gens qui appognent, ils appognent, puis parfait, puis moi, je continue, puis...
Moi, j'ai longtemps eu un tic, puis je l'ai encore, surtout quand je casse. Quand il y a une joke, je fais ça.
Oh.
Genre que c'est le moment.
Okay.
Moi, je suis très cabaret des années... moi, dans les années 30, à l'Allemagne, j'irais être extraordinaire.
Ouais.
Quand j'ai vu le film Cabaret, j'ai fait « Ah oh ouais, c'est moi, ça, avec un petit chapeau. » Puis...
Ah ouais.
j'ai beaucoup... Moi, j'ai besoin d'approbation, puis je vais la chercher. C'est le temps qu'on rit!
Oh ouais.
j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. OK, super. Et t'aimes beaucoup la lecture, ça a commencé quand, ça?
Quand même, je...
Parce que pour écrire aussi bien, à mon avis, il faut soit t'as beaucoup, beaucoup, beaucoup écrit ou t'as beaucoup lu. Là.
Ben merci, c'est gentil. J'ai consommé quand même beaucoup de. Beaucoup de cinéma, beaucoup de. Ouais, quand... ben, je pense que j'ai commencé à lire pas mal à 19 ans.
Okay.
Avant ça, il y avait beaucoup de tentatives, mais j'abandonnais, je trouvais ça difficile, de la misère à me concentrer. Mais c'est né beaucoup de. En fait, justement, d'être loin de mon pattern familial, là. Loin de ma mère et tout. Ça a été un peu calme. Ça, ma rébellion. Là. L'impro, aller loin, faire quelque chose de ma vie, faire des activités. Ça a été, tu sais, ma mère, c'est ça, elle est en maison, elle fait pas grand-chose et tout. Fait que moi, ça a été ça,
c'est
ma rébellion.
T'as pas une enfance stimulante.
Non, pas vraiment. Puis aussi, je voyais pas beaucoup d'ambition autour de moi. Je voulais avoir de la culture, connaître... Puis aussi, il y avait un coach d'impro qui m'avait dit, tu sais, ta boîte à outils, c'est des choses que tu connais, tu sais, en création. Puis j'ai fait comme, OK, ouais, ben, ouais, c'est vrai. Puis à 19 ans, je me souviens, le premier livre que j'ai lu, c'est Tristan Iseux.
Ah, chouette!
Ouais. Puis je sais pas, c'était juste par hasard, c'était vraiment juste le défi de, OK, moi, lire un livre au complet.
Go!
Ouais. Puis j'avais lu en quelques jours, puis là, j'avais aimé ça. J'avais pas. Le fantastique me parle pas tant que ça.
On est deux.
Ouais, OK.
J'embarque pas.
Mais,
Game of Thrones, j'ai essayé.
C'est ça,
pour faire comme tout le monde. J'ai pas été capable. Ce que j'aime de Game of Thrones, c'est rire de ma blonde qui aime ça. C'est ça le bout préféré de Game of Thrones. C'est quand c'est donc bien bon, puis trouver quelque chose qui marche pas,
pour
gâcher l'épisode. C'est tout ce que j'aime de Game of Thrones. Ça, puis on va se dire qu'il y a des très jolies femmes, là, mais à part ça...
J'ai jamais écouté, mais ouais. Mais ouais, c'est ça. Fait que, ouais, Tristan Iseux à la base, mais je me souviens quand j'ai fini, j'ai fait « Ah, crème, j'ai apprécié, puis je suis fier de moi. » Puis j'ai vraiment aimé ça, tu sais, lire des mots. Puis là, j'étais que en fait, tu sais, m'imaginer des choses en juste disant des mots. Puis là, il y avait plein de trucs, je me disais comment que ça a été écrit. Je me souviens que j'avais vu, non, ça c'était vraiment plus tard, mais je me souviens plus c'était quoi le... Ah, c'était, L'Orange Mécanique.
Ah oui!
J'avais vu le film, puis là, je me disais, hey, comment ça a été écrit? Puis là, j'étais obsédé par les shows, les films que j'avais vus, qui avaient aussi, qu'à la base, en fait, c'était des romans.
Oui.
Fait que là, je lisais tout que j'avais déjà vu en film, de comment ça a été écrit, comment ça a été pensé, est-ce que ça a été bien réalisé ensuite, est-ce que c'est les mêmes images, tu sais. J'étais vraiment curieux, donc j'avais lu...
Aussi, ce qui est fun de lire un livre,
ouais.
quand tu commences à lire des romans de films, il y a plein de séquences qu'ils n'ont pas mis dans le film,
ouais.
Des personnages qui sont pas là, qui sont dans le roman, ou...
Ah, puis des fois, même aussi, parce que comme L'Orange Mécanique, là, Burgess, il était pas d'accord là, avec le
film. Il a détesté le film.
C'est ça, il a écrit après ça Le Testament de l'Orange, qui était une fiction aussi.
Ah ouais?
T'as pas vu ça?
J'ai pas vu ça,
dans le fond,
non.
L'histoire, c'est un prof de... Il me semble que c'est ça, c'est un professeur de cégep qui a écrit un livre qui s'appelle Le Testament de l'Orange. Il y a un réalisateur qui fait un film, et le professeur, il déteste le film. Fait que tu sais... Puis il appelait ça Le Testament de l'Orange.
Ah, oh, super!
Fait que tout le long, il en a jamais parlé directement, mais c'est ça, il a fait une histoire avec ça.
Une amie m'a dit ça, je sais pas si c'est vrai. Il semblerait que ce qui s'est produit, c'est qu'un militaire aurait violé son épouse devant lui, comme dans le film, comme dans le livre. Il aurait écrit le roman d'un trait. Il y aurait eu un trait, jamais. Il n'y avait pas vraiment écrit de sa vie. Puis il y a eu un trait, quelque chose comme de 2 à 4 jours pour écrire tout le roman.
Ah, ouais, okay.
C'était vraiment un jet.
Ok, ça, je savais pas.
Je
sais que tout ce qu'il a écrit est basé sur sa vraie vie.
Mm-hmm.
Tu sais, le docteur est malade, c'était sur sa vie aussi.
Ah, je connais rien d'autre de cet écrivain-là. Ah, okay. Okay. C'est quoi, le docteur est malade?
Ça fait trop longtemps, par exemple, je l'ai lu.
je comprends.
Non, mais ça fait, je me souviens pas tant que ça.
C'est ce que je trouve tellement paradoxal de la lecture. C'est que moi, je me dis, comme toi, je vais lire pour avoir le plus de connaissances possible. Finis un livre, tu me dis c'est quoi le nom du personnage principal, puis je peux pas. J'ai aucune idée.
Mais je garde quand même des souvenirs, puis je me dis tout le temps que ça, c'est sûr que quelque part, ça l'influence justement ma façon d'écrire, ma façon de penser et tout, peu importe le livre. C'est ça. Même si je m'en souviens pas, subconsciemment, c'est sûr que ça a fait quelque chose, ça a fait un travail, ça a cheminé quelque part.
C'est quoi les romans qui t'ont marqué?
Le premier que j'ai vraiment, vraiment trippé, c'est Tous les petits animaux.
Ah, qu'est-ce que c'est?
De Walker Hamilton. En gros, c'est un petit gars qui... excuse-moi, c'est pas un petit gars, c'est un adulte en fait qui pense comme un jeune garçon. Tu sais, il a clairement un retard et il se retrouve sur. Sa mère a mort, excuse-moi, c'est parce que je retrouve
aussi. Non, vas-y, j'adore ça, vas-y.
Sa mère a mort, puis elle a un magasin général, puis c'est lui qui hérite dans le fond du magasin. Et son beau-père, il est pas gentil, puis il veut juste qu'il signe dans le fond pour que le magasin général lui appartienne. Finalement, le petit gars, il se sauve, il se retrouve sur l'autoroute, puis il rencontre un camionneur. Le camionneur, il l'embarque. Dans le fond, il fait du pouce, il l'embarque, puis il pogne un accident parce qu'il frappe comme, je me souviens plus c'est quel animal, là, mais un chevreuil ou whatever. Puis là, quand il se réveille, il y a comme un vieux monsieur à côté de lui qui est en train d'enterrer genre une marmotte de quoi de mer. Puis le vieux monsieur, il dit c'est ma job. Puis il fait « De quoi, c'est quoi ta job? » Fait « Ben, c'est ma job, j'enterre les petits animaux. » Puis là, il explique tout que pour lui, les petits animaux, c'est plus important que les humains, puis ils méritent une plus belle cérémonie que les humains. Fait que dans le fond, c'est comme un ermite. Il fait ses affaires, puis il trouve les animaux, puis il les enterre. Fait que ça devient comme leur job aux deux. Puis en tout cas, moi, ça m'a comme vraiment marqué parce que je l'avais lu en un seul après-midi. Comme j'avais vraiment dévoré parce que je trouvais ça bien écrit, je trouvais ça intéressant. Je pense que c'était aussi de l'analyse de l'humain.
De la mort.
Ouais, de la mort aussi. Puis ouais, c'est ça. C'est intéressant de voir quelque chose. Tu sais, dans le fond, de prendre un personnage qui est très, très, très naïf mm-hmm. pour expliquer des choses que tu réfléchis longtemps. C'est sûr que l'auteur a une analyse de l'humain vraiment à lui qui a réfléchi longtemps.
Le meilleur exemple, c'est La vie devant soi. La vie devant soi de Romain Gary, ouais. Où c'est un jeune enfant très, très, très naïf, puis il parle de prostitution, mm-hmm. il parle de mort, il parle de Palestine, il parle d'Israël. C'est de raison. Quand tu prends un personnage naïf, tu peux montrer plein d'affaires.
Ben ouais, ben mon personnage sur scène, c'est un peu ça aussi. Des fois, moi j'ai été au primaire à une école chrétienne pendant 2 ans.
Oh mon Dieu,
puis,
wow.
Puis je parle quand même de religion, mais on dirait que mon personnage fait en sorte que n'importe quoi je dis, mais je peux dire vraiment beaucoup de choses, puis les gens ils me prennent pas tant que ça au sérieux. Puis ceux qui comprennent dans le fond le degré là-dedans, puis qu'il y a comme un fond de vérité, ben, tu sais, ils comprennent, puis c'est chill. Mais il y a une grande partie que c'est juste des. Ben, ça fait ça avec l'humour en général, mm-hmm. que c'est juste des jokes. Mais je pense que ça passe justement parce que j'ai un peu ça. Mon personnage, entre guillemets, il a l'air un peu déconnecté, puis il a l'air de dire des affaires qui sont à côté de la traque. Mais au final, des fois, tu fais, ben non, tu sais,
mm-hmm.
c'est juste que t'as pas pris le temps, toi, dans le. C'est fou comment la part du monde aimerait ça, tu sais, prendre le temps de s'asseoir et réfléchir justement à la vie en général, puis faire comme, ben oui, ça c'est absurde, puis ça aussi c'est absurde, mais c'est toi qui as l'air fucké de t'asseoir et à regarder un peu à côté. Puis là, c'est comme, ah, lui il est bizarre, mais tu fais, mais pourquoi je suis tant bizarre? La seule affaire qui est bizarre, c'est moi je prends le temps de faire quelque chose que tu aimerais faire. T'sais, en tout cas, c'est comme weird des fois, ça.
Je suis d'accord avec ce que tu veux dire. Ouais. Complètement d'accord. Le côté philosophe de l'humoriste, je suis d'accord avec ça.
Ouais.
Et aussi, moi, un de mes héros, c'est Jerry Seinfeld. Mm-hmm. Tu lui ressembles un peu. Les deux, vous remettez en question des trucs dans la société qu'on n'a jamais remis en question. C'est ce que j'adore, le Jerry Seinfeld. Il prend des activités qu'on fait tous ou des comportements qu'on a. Puis il fait. C'est pas un peu de nono qu'on agisse ouais, comme ouais. ça. Puis il ouvre ton cerveau. Tu fais ah ouais, c'est vrai. C'est une. Ah, j'ai jamais observé ça. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment, ouais, vraiment ouais. génial.
Mais c'est vrai que ça fait partie de moi, ça, un peu. Parce que encore là, je pense que ça vient de. On m'a pas vraiment.
C'est nouveau pour toi. Il y a plein de concepts sociaux qui sont nouveaux pour toi, que tu as appris à la fin de l'adolescence ou au début de l'âge adulte.
Ben, c'est ça, parce que moi, des fois, on me dit comme, hey, t'es vraiment poli, t'es bien éduqué. Je fais, ben, tu sais, ça a été un choix. Puis ça, souvent, parce que je veux dire, être poli, il y en a qui le sont, mais que c'est des gens excessivement hypocrites. Je fais, non, il connaît la bienséance, mais moi, je pense que je suis gentil. Tu sais, il y a des gens qui...
Je comprends exactement la nuance.
Ouais. Parce qu'il y a des petites affaires, des fois, mettons, moi ça venait...
Moi, je suis ce que tu viens de décrire.
Ouais.
Je suis poli, mais je vais te parler dans la première minute que je te rencontre. Fait que je t'ai dit bonjour, je t'ai vouvoyé, mais tu rentres dans ma bulle.
Ouais. C'est plus ça que... Parce qu'on m'avait déjà dit, comme, mettons, j'ai pas le réflexe d'amener des... Maintenant, je comprends, là, mais avant ça, je comprenais pas la convention. Amener une bouteille de vin quand tu vas souper chez quelqu'un. Puis là, c'était comme... Tu sais, on riait de moi. Je suis comme, ouais, mais en même temps, je suis poli, je suis gentil. Puis il y a d'autres personnes là qui ils pensaient à ça, mais après ça, ils partent. Ils comme, ah, c'était lourd, puis il est-tu fatiguant? Puis je suis comme, hey, moi, par exemple, j'étais gentil tout le long. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans les apparences. Fait que moi,
notre milieu, on parle beaucoup dans le dos des gens. Je t'ai jamais entendu parler dans d'autres personnes, de qui que ce soit.
Non, mais je suis assez franc. S'il y a un problème, moi, être vraiment.
Ouais.
Puis souvent, c'est drôle parce que ça encore, c'est. Le monde a souvent le réflexe de faire. Hey, t'es awkward, là, ou malaise. Je suis comme, mais moi, il n'y en a pas de malaise. Moi, te le dire. Tu sais, des gens, des fois, qui font des sous-entendus, puis clairement, qui ne s'entendent pas super bien avec toi. Puis là, moi, je veux juste crever la piscine. Moi, être vraiment du genre à le dire, de faire. Hey, pour vrai, ça me dérange, ce que tu viens de dire.
Mm-hmm.
Puis, y a-tu un problème par rapport à moi? Y a-tu quelque chose? Là, ça va être comme. Là, il cherche l'approbation des autres de. Hey, il est lourd! C'est comme, mais pourquoi c'est moi qui est lourd? J'essaie de régler le problème parce qu'il y en a visiblement un. Mais il y a beaucoup de gens, justement, ça, moi, j'ai l'air. Ça va?
Bon, oui, je te regarde, excuse-moi.
Ah, ok, tu te regardais.
Bon, je fais de l'écran.
Ouais, pas trop. Mais ouais, c'est ça. Puis des fois, c'est moi qui a l'air socialement pas outillé. Mais pour ça, il me semble que ça serait le bon comportement pour que ça soit réglé et that's it. Mais il y a beaucoup de gens que... Ça me fait rire comment des fois, les gens sont... Ils vont me dire que je suis malaisant. Mais parce que si ça ne me tente pas de faire du small talk, moi, déjà, hey, c'est weird, il ne m'a même pas demandé si ça allait bien. Mais non, mais c'est parce que je m'en calisse.
Mm-hmm.
Puis là, j'ai fait, hey, il m'a dit qu'il s'en calissait. Ben oui, mais ça ne veut pas dire que ça ne me tente pas de te parler. Mais je veux dire...
Là, en ce moment, je suis tenté d'embarquer pour de vrai. Ou, tu sais, ça se peut aussi que je... Dans 15 minutes, j'essaie des nouvelles blagues, puis je pense à ça. Et c'est pas bizarre. Dans une loge, on pense tous à ça. On pense à notre matériel. Ouais, c'est ça. Puis, hey, si je veux savoir comment t'allais, on peut se parler sur Facebook. Je l'ai jamais fait. Alors, c'est un mensonge de « Hey, le gars à qui j'ai accès 24 heures sur 24, comment tu vas? » C'est faux.
Ouais.
C'est arrivé dernièrement. Quelqu'un m'a dit quelque chose, puis j'ai pas voulu répondre. Puis en fait, c'est bizarre ça. Puis j'ai dit « C'est bien plus bizarre crier à une foule. » Que je suis bizarre, que pas vouloir répondre à ta question.
Ouais.
Essayer de me bully avec. Hein? Tu rentres pas dans la convention, tu n'as pas la main du monde. Pour vrai, j'ai pas envie de te serrer ta main, mais c'est pas que je t'aime. Je comprends exactement ce que tu veux dire.
Ouais.
Ça me correspond. J'exprime moins bien que toi, mais je comprends ce que tu vis.
Mais c'est ça, parce qu'en général, pour de vrai, il y a pas personne que j'aime pas. Puis j'aime.
Ah oui, il y en a. Dans l'histoire ou dans la vie, là, c'est ça.
Il y en a, mais tu sais, ouais, mais tu sais, il y a pas de gens en fait que je suis.
T'as pas d'ennemis, là, t'es pas, je comprends.
Non, c'est ça. Puis en général, ou sinon, j'ai vraiment des bonnes raisons. Quand j'aime pas quelqu'un, c'est vraiment n'importe qui à ma place ne l'aimerait pas non plus, tu sais. Ouais. Parce qu'il
historique
ou. Ouais, c'est ça, exact. Mais sinon, en général, je m'intéresse quand même aux gens, puis je pense que je suis quelqu'un de gentil, mais je force pas les choses. Si ça me tente pas dans le moment, je suis dans ma tête ou whatever. Mais il y a beaucoup de gens. Tu sais, moi, j'ai de la misère là, en situation de. En faisant du PR, là, tu sais, dans des soirées, là, puis là, il faut faire ça. « Hey, ça, content de te voir! » Puis là, il faut faire la... Puis là, mais c'est ça qui est fou. J'ai réalisé que... Ben, en fait, c'est ça. Là, j'ai un peu trouvé mes repères, puis ça va. Mais des fois, faire semblant, là, ça sent tellement, mais je trouve ça tellement weird. « Hey, les deux, on a fait semblant d'avoir du fun là-dessus. Là. » Les deux, là, la joke que j'ai faite, elle était pas bonne. Toi, t'as trouvé pas bonne, mais t'as fait semblant de l'arrêt. Puis les deux, on est parti en disant « Ah, si j'ai un projet, m'a l'engagé. » Puis moi, je suis parti en faisant « Pense qu'il va m'engager. » Mais les deux, on n'a pas eu de fun. Là. Les deux, on a juste mis notre masque puis on a fait semblant. Mais c'est weird parce que pourtant, on aurait pu avoir une vraie discussion. Puis moi, c'est ça. C'est souvent quand les gens ont de la misère à me cerner au début. Puis là, quand ils ont une vraie discussion avec moi une première fois, ils font « Ah non, il est cool. » Puis il est vraiment pas si weird que ça, puis il est le fun. Mais ça prend comme une vraie discussion. Parce que si t'es en mode, justement, de passer de small talk en small talk avec tout le monde, là, tu vas tomber sur moi, tu fais « Oh, c'était weird.
Mm-hmm. »
Juste parce que ça me tente pas, ça.
Je comprends exactement. Je comprends. Oui, je comprends. Et moi, je trouve... ce que les gens considèrent bizarre, je trouve pas ça bizarre. Je trouve ça bien, moi, je trouve ça bien plus bizarre, les gens qui savent comment serrer une main. Hey, « Hey, comment est-ce qu'il va? Hey, le vieux chum! » On n'est pas des vieux chums, je sais pas.
Ouais.
Non.
Mais c'est pas... ça, moi, tu vois, ça, j'embarque pas. Puis souvent, c'est ces gens-là, justement, qui vont être déstabilisés parce qu'ils vont être genre à faire « Hey, man, ça va? » Puis là, je donnerai pas la main. Faire comme... Ou, tu sais, ils vont faire une vraie poignée de main. Puis j'avoue que je prends plaisir, justement, à comme vouloir... Non, non, elle revient vrai.
Je comprends t'sais, exactement ce que tu veux dire.
Ça, parce que ça me fâche, moi, ça vient me chercher ça, de faire... Non, non,
c'est soit, une mascotte, là.
Soit toi, là, oui. Tu sais.
Ou soit pas de même avec moi. Moi, j'ai déjà dit à quelqu'un, j'aime pas cette énergie-là, je veux pas que tu changes, mais arrive pas avec cette énergie-là. Au pire, tu peux...
Parce que je suis d'accord que la majorité des gens, c'est ça qu'ils veulent. Moi, ça me fait rire, ça, le concept d'authenticité. Il y a beaucoup de gens qui disent... Tu sais, mettons, ils regardent une vedette, là. Ah, elle aime lui. Ah, ou elle est authentique. Ils disent... Non, pas authentique, c'est tout ton concept d'authenticité. C'est cette personne-là dit les choses que tu penses qui sont... qui résonne, c'est la bonne chose à faire, mais c'est calculé. Elle a une relationniste de presse qui a dit « Dis ça pour vendre ton show. » C'est ça qui me fatigue de faire. Elle vient de dire comme « Ah ben moi, les valeurs, c'est sûr, moi, c'est ma famille. » Tu fais « Bullshit, esti, t'es en tournée pendant 3 ans. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu serais pas en train là de vendre des billets pour une tournée de 3 ans si ta plus grande valeur, c'était la famille. »
Complètement d'accord.
Fait que
complètement.
Mais c'est parce que tu veux vendre des billets à tous ces gens-là qu'ils considèrent pour de vrai que c'est la famille. Ils font « On va la voir. » Parce que, mon Dieu, qu'elle est authentique. Puis, en tout cas, il y a beaucoup de mensonges, je trouve, dans tout ça, dans l'échange, dans les médias, de comme j'ai bien de la difficulté.
Parfois, moi, je suis pour les mensonges parce que c'est pas parce que t'as un talent en art que t'es obligé de montrer ta personnalité. Il y a quelque chose où tu peux garder ton intimité. Fait que je peux comprendre des gens qui sont en guillemets fake parce que
ça, je comprends.
J'ai pas envie de montrer qui je suis dans
la vie. Ah non, ça, t'sais. Total. Moi, s'il y a une question qui me rend mal à l'aise, j'ai vraiment comme pour mentalité, par exemple, si tu me poses une question, j'ai pas envie d'y répondre, à la place de dire. Créer un malaise en disant « Hey, j'ai pas envie d'y répondre, Thomas. » M'a menti, aussi. Tu sais, mettons, tu me parles de mon enfance, puis j'étais pas à l'aise de dire sur ma mère et tout. M'a dit « Ah, mais ouais, ma mère est peinte, puis elle est fun. » Non, mais pour vrai, tu sais, puis en plus, ça va développer ta créativité.
Oui. Moi, j'ai toujours aimé les artistes qui mentaient tout le temps. J'ai quelque chose... Je pense que c'est Romain Gary qui a inventé plein d'affaires. Tant mieux, je veux dire. C'est un des plus grands.
Mais c'est même pas son vrai nom, là.
C'est ça.
Mais il y a un autre pseudonyme. Là.
C'est Émile Ajar. Mais lui, ce qui s'est produit, c'est que le Goncourt, un grand prix de littérature française, tu peux gagner seulement une fois. Ce qu'il a fait,
oui, c'est vrai, il a gagné.
Il a gagné deux fois parce qu'il a changé. La vie devant soi, c'est sur son nom de plume, Émile Ajar.
Ouais, c'est ça.
Mais je crois que toute sa carrière dans l'armée, tout ça, il a inventé. Et tant mieux, c'est beaucoup plus intéressant.
Ben oui.
Et aussi, j'aime beaucoup la vérité, c'est pas juste des faits. Tu peux mentir sur les faits, mais la vérité derrière, les émotions derrière, les idées derrière sont
bien. Oui.
La vérité jaillit quand tu fais certains mensonges.
Mais tu vois, c'est ça. Ça dépend c'est quoi ton but. C'est juste que là, c'était tu sais, dans le but de vendre des billets, quand c'est vraiment comme pour l'appât du gain, c'est là que c'est différent. Là.
Ah ouais, si tu veux faire de l'argent, pourquoi pas? Avec de l'argent, tu peux acheter les affaires.
Mais moi, qu'est-ce qui me fatigue, c'est en fait, c'est souvent ces gens-là qui occupent la plus grande place dans les médias. Puis là, c'est on se fait tout à croire quelque chose de... Dans le fond, ça résonne parce qu'on se fait dire, exemple, justement, des trucs comme sur la vie de famille et tout. Quand tu sais, mettons que cet artiste-là, il est pas cool avec sa famille ou il est même plus en couple pour de vrai, whatever. Tu sais, des trucs comme ça. Puis là, tu fais, puis cette personne... ou mettons, là, puis cette personne-là écoute ça, puis se convainc de ce mensonge-là parce qu'il fait la même affaire au quotidien, whatever. Je trouve juste que ça devient...
C'est toxique.
C'est ça. Mais par exemple, dans cet aspect-là, je trouve ça cool. Tu sais, si ça fait.
Mais Jean Leloup, moi, je veux pas savoir le vrai quotidien de Jean Leloup.
Ben non,
je
c'est
veux
ça.
Qu'il m'explique des
images. Non, ça crée la légende.
Ben oui.
Ben oui.
Tant mieux si tu as cette créativité-là.
Oui, mais non, ça, je suis d'accord. Parce que sinon, moi, pour des trucs comme ça, j'aime mentir. Là. Non, c'est vrai. Mettons, moi, je suis genre. Tu me demandes qu'est-ce que j'ai soupé, puis ça se peut que je te dise, tu sais, de la lasagne, puis j'ai mangé un pâté au poulet. Juste parce que ça me tentait pas de dire, je trouvais pas ça le fun, tu sais.
Oh, je trouve ça génial.
Fait que c'est pour ça que, ouais, c'est ça. J'aime le mensonge, mais dépendamment du à quel moment.
Il y a un truc que tu m'as dit environ un an à Sherbrooke, puis ça m'a... J'avais jamais... À part ça, je trouve très intelligent, puis souvent, ce que j'aime dans une loge, c'est quand... Ça paraît pas, là, mais souvent, c'est ce que je veux, mais je le fais pas. souvent que dans une loge, je me tais pour t'écouter parler parce que je te trouve intéressant.
Ah ouais, OK.
Ouais, mais... beaucoup. Il y a un truc que tu m'as déjà dit, et je trouve ça génial, j'ai fait... Je commençais en stand-up, et tu m'as dit, je sais pas dans quel contexte, mais moi, quelqu'un qui est bon partout, 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 je crée pas à ça. Il y a quelque chose qui marche pas. Oui, tu me dis, quelqu'un qui est bon partout, il va nulle part. Parce qu'il faut que ton humour, des fois, ne plaise pas à d'autres.
Oui, oui, OK, ouais.
Qu'est-ce que tu veux dire par là? Moi, j'avais trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment génial, mais veux-tu continuer?
Ben là, j'essaie de me remettre en contexte, mais que je pense que qu'est-ce que j'ai l'impression que je disais, c'est... Moi, j'aime ça faire rire... comment dire? Si je suis devant un public de gala, juste pour exemple, qui aime l'humour en général... J'ai pas l'impression que c'est tout du monde qui vont aimer ce que je fais moi, parce que justement, moi, j'aime ça ne pas connaître les codes et ne pas les respecter. Et moi, qu'est-ce qui me fait plaisir, c'est des gens qui rient. Ils rient à 100%, mais vraiment, ça va aller chercher. Puis cet humour-là, il n'y a rien qui va les faire rire plus que ça, parce qu'ils font comme Colin. Puis je pense, parce que qu'est-ce que je fais est assez organique. Là. Mm-hmm. Donc, je prétends pas comme faire rire plus... que d'autres, mais je pense juste que les gens que ça les touche, c'est des gens qui vraiment ils rient aux mêmes affaires que moi, parce que moi, ça me fait rire pour vrai. Ce que je suis en train de dire, ça me tente de le dire vraiment. Et je dis juste que.
T'as pas souvent la phrase que Benz Morris dit de. Cette joke-là, je l'aime pas, mais ça rentre fort, je la garde.
C'est ça, mais. Je comprends. Exactement. Puis là, ça rentre fort souvent quand tu fais rire 100% du monde. J'ai pas l'impression que 100% du monde, par exemple, rit à 100%. De le rire. Tu sais, ça va pas aller chercher d'un trip, ça va souvent, le rire va être comme « Ah, ben oui, c'est une joke, c'est hey, bonne la joke. Mm-hmm. » Fait que souvent, quand tu essaies d'aller toucher le plus de gens, tu touches beaucoup, mais tu touches t'as pas un impact.
Oui, c'est comme la certaine musique pop, c'est pas toujours la musique qui est ton haut des palmarès qui va toucher les gens.
Ça va te faire danser, mais pas pleurer, tu sais.
Voilà. Ça va pas, ça va jouer dans aucun des funérailles de personne.
C'est ça. Tu vas faire comment, ben oui, exact. Mais
des exceptions, le Thriller, c'est un super album, mais des fois dans la musique pop, il y a des trucs.
Non, c'est ça, exact. Fait que je pense que c'est ça que je voulais dire, que ça me dérange pas si je fais rire 60% de la salle un soir, mais que ce 60%-là est plus capable de faire comme Colin, OK, ça fait du bien. Puis qu'un autre soir, si je fais rire 10%, ça sera ça. Puis l'autre soir, peut-être que 100%, ça va être mon crowd. Mais juste pour dire que viser. Tout le monde, c'est que, ben là, tu sais, t'es édulcoré, là, tu sais, tu t'enlèves de la saveur de plus en plus jusqu'à devenir, qu'est-ce que, en fait, c'est que tu réfléchis à qu'est-ce que tu penses que les gens, ils veulent, mm-hmm. puis qu'est-ce que les gens, ils veulent, au final, vraiment, c'est quelque chose qu'ils savent pas qu'ils veulent. Mm-hmm. Il faut que tu penses déjà.
Réfléchis comme Pepsi.
C'est ça. Faut que tu penses deux, trois, tu sais.
Ouais, c'est comme le, je reviens à une marque, là, mais Ford disait ça, celui des automobiles. Il disait, fallait pas que j'écoute la population, parce que si j'avais écouté la population, j'aurais juste donné des chevaux qui vont plus vite.
Ah ouais.
Pour que tu penses un peu plus vite. Ou une fois, un gars de la BBC qui avait dit, je vais pas donner ce que les gens veulent, je vais donner quelque chose encore meilleur.
T'sais. Ah oui? Mais ouais. Ben moi, je pense même pas à l'efficacité. Là. Je pense juste, au-delà de ça, à moi, qu'est-ce qui m'allume pour vrai de
dire... Tu veux créer une œuvre aussi. Tu ben veux oui, te reconnaître dans ce que tu fais.
Parce que moi, ça me fait rire, ça aussi. Moi, j'ai demandé pour mon spectacle de pas savoir le nombre de billets que je vends.
OK.
Tu sais, billets d'or, ces affaires-là, je veux pas. Je veux vraiment pas le savoir. Puis même si j'atteins, je sais pas, moi... Même si c'était 50 000, 60 000, 80 000, 100 000, whatever, je veux pas. Je veux pas le concept du billet. J'en parlais, tu sais, c'est Louis Morissette, mon producteur,
mm-hmm.
qui disait ça, que pour vrai... Puis c'est rien qu'on... pour de vrai, je respecte vraiment Louis. Là. On oui, a pas la
mais vous avez des vies différentes.
Exact, exact. Puis on n'a pas la même vision, puis c'est bien correct.
Ce qui fait que vous fonctionnez bien, parce que tu peux juste apprendre de cet homme-là.
Ben oui,
parce
ben
que
oui.
Tout ce qu'il lit, tu le lis pas. Puis à l'inverse, tu peux apprendre de toi, parce que...
C'est ça, exact. Bien, ouais. Mais moi, que j'ai de... qu'est-ce que je disais? C'est vendre 100 000 billets et être fier du nombre de billets vendus, mais que les gens ne se rappellent pas nécessairement de tes jokes.
Mm-hmm.
Moi, ça me fatigue. J'aime mieux. Surtout qu'à un moment donné, quand on m'a mouru, il m'a fait comme « Hey, c'est vrai, j'ai fait ce show-là. » Il me fait vraiment rire plus que comme « Hey, ce show-là a vendu
mm-hmm.
tant de billets. » Mais je sais qu'il y en a pour de vrai, c'est des vrais mm-hmm. accomplissements qui vont faire comme « Hey, j'ai vendu ça. » Ils se rappelleront pas des jokes qu'ils ont écrites, mais moi, je veux le contraire. Puis même joke, ça me fatigue. Tu sais, je veux... Je sais pas si m'a fait de l'humour toute ma vie. Je sais juste que j'aime ça créer des affaires puis mettre des
aimerais-tu
idées.
Aimerais-tu un jour faire de la... jouer dans un truc, disons, sérieux?
Oui, 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 vraiment.
Parce que tu joues très, ouais. très, très, très bien.
Ah ouais, ben merci.
Catherine et les autres acteurs de Like Mom, ils m'ont dit qu'ils aiment beaucoup, beaucoup jouer avec toi.
Ah ouais?
C'est quelque chose qu'ils aiment beaucoup. Ils adorent avoir des scènes avec toi, que t'es un super comédien.
Ah, mais ça me fait plaisir. Je savais pas qu'il y avait du ça, les autres comédiens.
Parce que ben, moi, c'est ce que les rapports, ce que Catherine m'a dit, là, que c'était vraiment cool jouer avec toi.
Ah,
les journées où t'es là, c'est vraiment le fun.
Ah ben, je suis vraiment content.
Puis on le voit dans les sketchs que tu joues, là, t'es un super comédien, t'es très généreux. Parce que t'es pas ce qu'on appelle un puncher de... C'est quand est-ce que le gag arrive, tu veux faire fonctionner quelque chose, oui. T'es vraiment là pour le...
Ah, moi, les affaires qui me font le plus rire, c'est les situations que tu crois, mais que... En fait, non, c'est pas vrai que tu crois au jeu, mais la situation, non.
Mais parlons-en, c'est quoi tes œuvres cinématographiques que tu adores?
Comme je disais, par exemple, je suis pas axé comédie, mais niveau... Avec okay. Joaquin Phoenix.
Ben oui.
Moi, c'est un de mes films favoris. Là. Moi, j'aime vraiment beaucoup ça.
C'est l'histoire pour ceux qui savent pas, c'est l'histoire d'un homme qui tombe en amour avec un ordinateur.
Un système d'exploitation,
ouais. Pardonne-moi,
ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'adore ça. C'est un peu à la Black Mirror, là. Dans le fond, extrapolé sur les... Ouais, c'est ça. Mais moi, j'adore ça, extrapolé sur les technologies, mais pour mettre la loupe sur des comportements humains, là. Moi, j'adore ça. Justement, il y a un livre que j'ai lu il y a 2 ans, Love Star, qui est un peu dans le même... Ben, c'est pas le même concept, là, mais dans le même type d'univers, là. C'est bien intéressant.
Et déjà, tu m'avais raconté, t'étais un des rares que... Le film Arrival de Denis Villeneuve,
ouais.
T'avais lu la nouvelle avant
tout. Ouais,
ouais, t'avais déjà lu la nouvelle, puis en plus...
J'avais pas déjà lu la nouvelle, en fait. C'est, je savais qu'il y avait une nouvelle, puis avant de voir le film, juste avant, j'ai lu la nouvelle.
Cool!
Fait que j'ai back-à-back. La même journée, je me suis dit, ah, m'a allé écouter le film. Fait que le matin, j'ai lu.
Génial.
Ouais.
Cool.
Ouais.
Puis c'est cool, des fois, quand ils font des films avec une nouvelle, parce que c'est plus le fun prendre 55 pages pour faire 1h30 que prendre 450 pour couper plein de pages. Il y avait Hitchcock qui disait... Hitchcock a toujours fait des films de romans de gare. Des romans de gare, c'est des romans de série B, des romans, il crée la va-vite. Puis il expliquait que ces romans-là, je peux les amener à un autre niveau. Tandis que, mettons, Crime et châtiment de Dostoevsky, faudrait que je filme un film de 9 heures. Là. Il y a tellement de nuances que je peux pas filmer.
Ben ouais, ben
c'est
ouais,
plus
ouais.
Fun pour un petit
œuf. Ben juste les 3 mousquetaires, là.
Bonne chance, ouais.
T'sais, c'est fou quand même qu'il y ait autant de films des 3 mousquetaires, mais c'est pas pour rien. Là. Je pense que la base, c'est tout le temps comme justement les personnages puis that's it, là. Tu sais, t'as comme, OK, on va pogner le cardinal de Richelieu, on aime bien D'Artagnan, le reste, là... parce que, tu sais, c'est des gros livres, là,
oui, Alexandre Dumas. On va t'expliquer pendant 10 pages son hôtel, puis comment il paye sa chambreuse, puis c'est la lumière.
Oui, il y a beaucoup de descriptifs, là. Ouais.
Je sais pas pourquoi il fait des si longs romans. Je pense qu'il y avait une raison de plus... Ah, je sais pas, j'allais inventer quelque chose, puis j'essaie de moins faire ça maintenant.
Okay.
Mais à l'époque, les romans étaient beaucoup... Peut-être aussi que t'avais juste ça à faire.
Là. C'est ça
que
j'allais dire, moi. Ouais.
T'es plus long, t'as plus de... ben ouais. T'sais, lire de romans, c'était... T'avais soit lire des romans, soit avoir une deuxième famille que tu caches à ta femme, soit la guerre.
Enfin, ouais, ouais.
Le temps de lire des longs romans de 400 pages. Ouais. Sinon, d'autres trucs que t'as aimé, d'autres films?
Sinon, autre film que j'écoute plus d'une fois. Il y a Blue Valentine, je me souviens que ça m'avait... Mais j'ai pas écouté si souvent
David
ça.
Lynch qui a fait ça?
Je me souviens plus.
Okay.
Je me souviens plus. À part de ça, d'autres films. C'est tout le temps quand on pose la question, comme ça, qu'il n'y a plus rien qui. Mais non, pas trop. C'est juste que. Mais je me souviens que ça m'a vraiment marqué. C'est juste que là, j'essaie de penser
à d'autres films. Tu les frères Coen ou pas plus qu'il faut?
Quand même. Mais je les ai découverts sur le tard, quand même. J'ai écouté il n'y a pas longtemps comme Burn After Reading. Puis c'est eux.
Oui, c'est bien. Oui,
okay. Tu me faisais un genre de...
Excuse-moi, des fois, j'ai mes yeux, je suis dur à lire.
ouais. Mais je pense qu'il n'y a rien encore qui m'a vraiment comme marqué d'eux, disons, que je mettrais dans mon top 5. Là.
As-tu vu Barton Fink?
Non.
Tu risques d'adorer Barton Fink.
Ah ouais?
C'est un livre sur la création.
Okay.
C'est pas un livre, plutôt, c'est un roman, un film sur la création. Il écrivait un autre film qui s'appelle Miller's Crossing. La meilleure période des frères Coen, à mon avis, c'est dans les années 90, juste avant qu'il rencontre... C'est pas qu'il était pas bon, mais juste avant de Big Lebowski, il a rencontré Roger Deakins, leur directeur photo. Ils ont une série de films qui sont vraiment, vraiment, vraiment fous.
Okay.
Et ce qui s'est produit, c'est qu'il écrivait un film, Miller's Crossing, qui était un pastiche des films des années 30.
Okay.
C'était tellement dur à écrire qu'il y avait un blocage. Fait qu'ils ont écrit là-dessus sur le blocage et c'est extraordinaire.
Ah ouais?
C'est okay, puis, il y a plein de niveaux. C'est très absurde. C'est beaucoup. Te donner une idée. Il y a beaucoup de références au nazisme, il y a beaucoup de références à l'antisémitisme, il y a beaucoup de références à l'Hollywood des années 30.
Okay.
Je ne sais pas si tu connais l'écrivain F. Scott Fitzgerald, qui écrit de... Ben, un des personnages est inspiré de lui. Le personnage alcoolique, il y a lui puis son épouse Zelda qui sont là. Il y a plein de... À mon avis, tu vas adorer.
OK. On va regarder.
L'idée, cette année-là, à Cannes, ils ont gagné meilleur réalisateur, meilleur acteur, puis meilleur... Puis, ouais, c'était meilleur film, meilleur acteur, meilleur réalisateur.
Ah, ouais,
c'est
okay. Un triplé. Nice.
Parce que Polanski trippait sur eux autres.
OK.
Mais les frères Coen des 90, c'est quelque chose. Et à mon avis, si tu ne l'as pas déjà vu, The Big Lebowski, c'est la meilleure comédie.
Ça, j'ai vu.
C'est complètement...
Ouais, je l'ai vu. Ouais.
C'est magnifique, à mon avis. C'est la meilleure affaire.
Là, je viens de me rappeler ben, Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
Oui, c'est super, ça.
Et Planète Terreur.
Qu'est-ce que c'est ça?
T'as jamais vu Planète
Terreur?
Jamais
vu ça.
C'est de Robert Rodriguez. Hein. Tu sais, c'était dans... comment ça s'appelle? Tu sais, les films, là. Il y a Death Proof de Tarantino. Puis que ça venait avec, tu sais, les programmes doubles.
Oui,
c'est ça déjà le nom. Ça a un nom pour ça.
C'est des Grindhouse.
C'est ça, Grindhouse?
Grindhouse.
OK, bon, c'est ça.
Les films vraiment les plus violents possibles, les plus sexuels possibles.
C'est ça, exact.
Une des blagues qui fait, quand il y a une scène de sexe, la pellicule brûle, comme à l'époque, des fois, la pellicule brûlait. Oh oui.
Mais je me souviens, c'est ça, une genre de parodie de film de série B, de zombies. Là. Ça, j'avais vraiment aimé. Là. Ouais.
Très cool. Veux-tu réaliser un jour?
Ouais, vraiment.
OK.
Ça serait vraiment un de mes rêves. D'ailleurs, j'ai comme deux scénarios que j'ai écrit, un court-métrage puis un long-métrage.
Félicitations.
Mais, ben merci, mais tu sais, ça, j'ai rien fait encore, mais j'aimerais ça. Mais là, j'ai tout le temps de tu sais, je regarde un peu comment ça se passe. Tout le temps, je suis curieux de la réalisation. Moi, j'aimerais vraiment ça. Ça, puis comme qu'on disait, ben, je suis content que tu me dises que tu trouves que je suis un bon comédien. Je pense que...
T'es un excellent comédien, à mon avis.
Ben merci. Je pense que je suis pas pire, mais il me manque encore des... Tu sais, mettons, incarner vraiment un personnage, j'ai plus de difficultés. Je pense que je suis... J'ai comme une bonne sensibilité pour comprendre l'écriture puis comprendre comment faire vivre la situation. Mais par exemple, vraiment me plonger dans un personnage qui est loin de moi, faire de la composition, je pense que ça, par contre, ça serait insultant pour beaucoup de comédiens de dire que je suis un si bon comédien.
Mais Chris Rock disait ça à propos des comédiens. Il y a deux... C'est gros, là, mais il y a deux types de comédiens. Il y a les comme Joaquin Phoenix qui change complètement. C'est un nouvel individu. Où là, son nom m'échappe, mais celui qui joue dans There Will Be Blood, celui qui a joué Lincoln, c'est l'anglais qui gagne tous les prix.
Okay.
Daniel Day-Lewis, lui, il incarne vraiment un nouveau personnage. Ou il y a ceux qui ont une personnalité forte et que c'est un peu leur couleur. Exemple, Robert De Niro. Robert De Niro, c'est toujours un homme qui joue. C'est un homme qui a du pouvoir. Ouais. Fait que je pense que t'es pas obligé de faire une composition à 100% pour avoir ta place dans un... Patrice Robitaille, je pense pas qu'il fait de la composition à 100%, mais ce qu'il propose, c'est génial. Pareil pour Antoine Bertrand, il y a plein de comédiens qui... Juste avoir du charisme et une présence forte. Et comme tu dis, comprendre un scénario et l'amener à un autre niveau.
Oui, non, t'as raison. Il faut que ça existe aussi, ce type de comédien-là. Mais oui, effectivement. Moi, d'ailleurs, j'ai appris il n'y a pas longtemps que Michael Keaton, c'était un stand-up à la base. Hein.
Au début.
Je savais pas en tout.
Ben, moi, j'ai entendu dire que quand tu veux devenir acteur, c'est la meilleure manière de te faire connaître.
À LA, là?
Ouais.
Ouais.
Tu vas dans des clubs, il y a plein d'agents, puis tu fais un certain talent, puis c'est comme ça que tu commences.
Ouais.
Et moi, tant qu'à rentrer là-dedans, tant qu'à parler d'anecdotes des années 70 de comic. Comment il s'appelle déjà? Tim Allen, c'était avant tout un vendeur de coke.
Ah ouais?
C'est un grand vendeur de cocaïne qui s'est fait arrêter. Il a parlé à la police, il a fait arrêter tout le monde, il est sorti, puis il a commencé à faire du stand-up. Tim Allen, monsieur conservateur, monsieur Home Improvement, monsieur La Famille, c'est un grand vendeur de cocaïne. Si vous le googlez, vous allez avoir son image.
Mais c'est drôle parce que j'imagine que même là-dedans, tu peux avoir une certaine rigidité.
C'est pas la rigueur pour être vendeur de coke.
C'est ça. Parce qu'il y en a des fois, tu sais, ça a l'air des tout croches, mais moi, je me dis des fois, il a pas choisi nécessairement le bon chemin, mais il y a des génies là-dedans, là, dans le domaine pour vrai. Tu sais, il y en a que c'est des businessmen.
Bien sûr.
Il y en a, tu fais comme, man, toutes ces énergies-là, parce que je me souviens plus, on avait un... En tout cas, peu importe, là, mais il y a un gars que je connais pas, là, mais ami d'amis, que lui, là, il gérait sa patente de weed, là, mais un autre niveau, on est quand... Dude, man, il faut t'aille au HEC. Tu sais, comme t'as tout,
bien
qu'est-ce
sûr.
Qu'il faut
J'suis
pour
comme... complètement d'accord.
Puis là, lui, quand le pote est devenu légal, c'est comme, ben oui, tu sais, faut... Mais comme, mets toutes tes énergies dans de la vente légale, pis man, tu vas y arriver, tu sais.
Ben même, c'est ce qu'ils font des fois. La plupart du crime, les Hells Angels, le crime organisé, deviennent légaux sur leur objectif. Ils disent, on a un certain talent, puis tu veux te sortir de ça.
Ben oui.
Ou je sais pas si t'es familier avec la série The Wire.
Non. The Wire, je sais c'est quoi, mais j'ai jamais écouté.
Un des personnages, c'est un vrai gars. Et lui, il étudiait vraiment au collège en économie pour aider sa business de coke.
Ah ouais, OK.
c'est de l'héroïne, mais c'est comme c'est pour... Il voulait savoir c'est quoi l'économie pour plus...
Ouais. Mais c'est pas dans Breaking Bad du tout qu'il y a un bout de...
Mais Breaking Bad, avant tout, c'est que c'est un génie de la...
Ouais, de la chimie, là. Mm-hmm. Mais il y en a un autre, me semble, qui est engagé à un moment donné pour gérer vraiment niveau business. Mais c'est flou, là. C'est pas un petit bout, je l'ai vu, mais en tout cas, ouais.
Je m'en souviens pas.
Je sais que c'est commun dans le monde.
J'ai pas trippé sur Breaking Bad.
Ah non, OK.
Mais j'ai aimé ça, mais j'ai pas
trippé. Moi, c'était le jeu Bryan Cranston, là. Je le trouvais vraiment bon.
Wow. Lui, il est quand même un truc. Il est vraiment, vraiment différent de...
De Malcolm in the Middle.
Ben oui.
Ça a pas de sens. Mais à la base, lui aussi, c'est un acteur comique, là.
Ah ouais?
Ben, tu sais, je veux dire, il a joué dans des trucs vraiment plus légers. Là. Il a vraiment un bon ton comique. Il était bon dans... Moi, je pense que c'est lui qui m'a le plus captivé dans Breaking Bad.
Moi, je suis un des rares qui préférait l'autre. J'aimais beaucoup Jesse.
Ah, ben, j'aimais les deux. D'ailleurs, tu savais-tu que c'est lui qui produit BoJack Horseman?
Ah, c'est pour ça qu'il est dedans.
Ouais.
Wow.
Qui est une série que j'aime beaucoup. Je suis un amateur de cartoon. Hein.
Ah ouais, moi, je connais pas ça. C'est quoi tes cartoons favoris?
Évidemment, Rick and Morty. Okay. Mais mettons, y aller un petit peu plus niché. Là. Moi, il y a Clone High.
Oh oui! Comme... Ouais. Quand j'étais enfant, j'écoutais ça. J'adorais ça.
Mais réécoute-le maintenant. Tu vas voir à quel point c'est du génie.
Okay.
Parce que moi, j'avais comme le souvenir que je me disais, ah, c'était une bonne idée, ça. Parce que, tu sais, dans le fond, ils clonaient des personnalités de l'histoire. Puis là, ils les mettaient dans une polyvalente. Fait que, tu sais, ça permettait plein de gars que Cleopatra, comme la chicks de l'école. Ouais. T'avais Lincoln, qui est comme... Puis ils sont conscients aussi, dans le fond, que c'est des clones. Fait qu'il y en a qui se mettent une certaine pression, qui font comme « Colin, je réussirai pas à être ça, là, tu sais. » Puis c'est vraiment comique. Je l'ai réécouté. Et c'est une seule saison, parce que c'était vraiment... c'est drôle parce que ça a été la critique là, ça a été démoli quand c'est sorti.
Oh, ouais, j'aurais jamais
et pourtant
cru.
Aujourd'hui je pense que ça fait comme 5 ans que là c'est considéré comme une série culte.
Je suis d'accord,
c'était vraiment avant-gardiste, c'était une bonne idée. Et je te jure, tu sais, moi j'avais le souvenir de ah, c'est une bonne idée qui a été mal exploitée.
Mes amis, mais moi, non, on se regroupait chez moi pour le regarder.
Okay.
On était fanatiques de ça.
C'est vraiment
on avait
bon.
Vu chaque épisode 4-5 fois.
Mais c'est vraiment
ça, la clé, c'était nos séries qu'on tripait.
Ah ouais, hein. Mais je te jure, moi, j'avais vraiment le souvenir que c'était une bonne idée mal exploitée, mais non. C'est vraiment bien écrit, c'est super drôle, c'est vraiment bon.
Moi, l'image que je me souviens le plus, c'est quand ils se frenchaient, ouais. Leur visage s'approchait, tu vois, les langues tournées, c'était extraordinaire. C'était... Moi, j'aime beaucoup les cartoons qui ont un dessin particulier. Des fois, je trouve ça ennuyant.
Ben,
que...
oui.
Mais ton dessin ressemble beaucoup aux Simpsons. C'est un peu c'est une des raisons pourquoi j'ai toujours détesté Family Guy.
Ouais.
C'est ça ressemble pas mal aux Simpsons. Visuellement, il n'y a rien de nouveau. Moi, c'est que j'adore le South Park. On dit, on va aller anti-Simpson, ouais. On va coller des affaires, ça va être weird, ça va être super comique.
South Park, c'est vraiment bon. Là. Le dernier, c'est vraiment de la culture pop, là, mais le dernier Spider-Man, là, c'était vraiment bon.
Ben, c'est génial, ça.
C'était vraiment, vraiment
bon. Spider-Verse?
Ouais.
John Mulaney, il joue un cochon.
Je me souviens plus des acteurs que je jouais dedans. Okay. Là, je l'ai vu en français avec mon fils. Là.
John Lennon, il ressemblera pas.
Ouais. Mais il était. C'était vraiment, vraiment bon. Ouais. C'était justement quand tu parles de dessin, là, ça m'avait marqué de niveau la réalisation. Là, j'avais vraiment trouvé ça bon.
Ah, chouette.
Puis, les dessins.
Il y a eu l'Oscar, c'est quand même cool. Là.
Ouais.
Contre des films de Pixar. Si tu bats Pixar.
Ouais. Ouais, bravo. Sinon, à part de ça, quel autre dessin animé que j'ai vraiment trippé?
Moi, enfant, j'adorais. Le dessin animé de Pink Floyd.
Ah, oh, j'ai jamais vu.
Le film de Pink Floyd qui est un dessin animé, j'avais vraiment trippé. Faut dire que quand tu fumes du weed puis tu constates les communistes parce que tu vis sous le bras de ton père, ça me touchait vraiment. Ah oh, ouais, là, c'est le marteau, yeah.
Ah oh.
Oh, ouais, c'est la fleur, c'est un pénis, c'est un vagin. Une femme peut te faire mal. J'étais content de me faire dire ça.
Oh, ouais.
Les femmes peuvent faire mal aux hommes. Ça me rassurait dans mon esprit de petit gars de 15 ans. J'aimais bien ça.
Ned et son triton, quand j'étais petit aussi. Parce que ça je me souviens qu'il y avait aussi...
Je pense que Ken Scott a déjà écrit là-dessus.
C'est vrai?
Je crois que oui.
Ah, ouais?
Je crois que
je me souviens que... c'est flou encore, là, ça aussi. Mais je me souviens que... Tu sais, il allait dans plusieurs époques, hein, mm-hmm. Il me semble.
Fait que
ça,
il était magique, fait que...
C'est ça,
j'adore,
mais ça,
c'est ce qui est magique, moi.
Mais moi, c'est drôle, il y a une de on parlait qu'on n'aimait pas le fantastique. Tu sais.
J'adore la magie, j'aime pas le fantastique.
Ouais, je comprends,
j'aime pas le Moyen-Âge.
C'est ça.
Et là, quand tu m'expliques longtemps que dans la comté lointaine, là-bas, les pieds sentent pas bon. Ah, oh, s'il vous plaît. Là.
Ouais, je comprends. Mais ouais, c'est ça, j'aime ça quand tu sais qu'on peut rire de l'histoire et tout dans un dessin animé. Tu sais, les enfants, ils réalisent même pas qu'ils sont en train d'apprendre des trucs. Là. Ça, c'est vraiment
magnifique.
Cool. Là. Sinon, ben là, c'est ça, c'est ça à toutes les fois, tu sais, c'est ça. Toutes les fois que tu veux parler de tout l'éventail de trucs, là, j'ai, mais moi, en tout cas, Mais ouais, j'aime beaucoup les dessins animés en général. Je pense que ce sera un de mes rêves aussi, ça.
C'est dommage qu'il n'y ait pas la culture de dessins animés au Québec. Je me dis qu'avec les ordinateurs, maintenant c'est moins compliqué. Tu n'as pas besoin d'envoyer tes dessins en Belgique ou en Taïwan pour que des enfants le fassent à ta place. Ouais. Avec un ordinateur, tu pourras avoir accès. Je sais que les Denis Drolet caressent un rêve de dessins animés depuis des années.
Oui, ils ont comme passé proche plein de fois. Moi, je voulais que ma captation de One Man Show, ce soit pas une captation, mais un dessin. Je voulais qu'on capte l'audio puis que quelqu'un me dessine. Puis dessine, tu sais, qu'on fasse vraiment, dans le fond, une captation de vraie, puis qu'après ça, quelqu'un dessine cette captation-là. Fait que même les gens, tu sais, avoir des reaction shots de public, mais qu'ils soient dessinés, ces gens-là.
Superbe.
Ça me tentait vraiment. Ben, j'ai encore envie, mais encore là, c'est des coûts supplémentaires. C'est. En tout cas, on verra en temps et lieu.
C'est génial.
Mais c'est vraiment une idée que moi, ça me plaisait beaucoup. Puis je me disais, j'aimerais ça que ce soit impossible d'avoir ma vraie captation de show. C'est un dessin animé. Mais c'est les vraies réactions. On enregistre l'audio, c'est vraiment impeccable. Mais que le vidéo, il y a juste moi qui l'a.
Ah, c'est super. Ouais. Super, super. Un truc que j'adore, on parle de dessin animé puis à apprendre. T'es familier avec Mike Judge, le gars qui a fait King of the Hill et Babies in Butthead. Dernièrement, il y a une nouvelle série. C'est une série de documentaires, dessins animés.
Okay.
Il y a deux saisons. La première saison, c'est sur des grands musiciens country oubliés. Et c'est sur leur vie, c'est phénoménal.
OK.
C'est, je pense que c'est Anecdote of the Back of the Bus. Tapez Mike Judge Country. Et la deuxième saison, c'est sur les funk, les vedettes funk. T'as entre autres Rick James. C'est hallucinant. Et James Brown. James Brown, c'est un de mes héros hors scène. James Brown hors scène, il n'y a aucun sens.
Qu'est-ce que ça veut dire sur scène?
Ben, sur scène, mais il était tellement fou. Exemple, donnez une idée. Il était un dictateur avec son band. Et sur scène, quand il dansait, il y avait certains moves de danse qui étaient en fait des amendes à son band quand il faisait pas les choses comme il voulait. Exemple, si tu manquais un pas de danse, il te faisait ça. Ça voulait dire 50 piastres d'amende. Fait que pendant qu'il dansait, dans sa chorégraphie qui était déjà extrêmement complexe, il intégrait des amendes à toute son band. Non, James Brown, il est complètement fou.
C'est bien fou.
Ben il est malade. Lire sur James Brown ou apprendre des choses sur James Brown, vous allez jamais vous ennuyer.
Ah, t'as dit James Brown?
Excuse-moi, James Brown. Et ça, juste, il y a une vidéo de lui, c'est une des premières vidéos de CNN, c'est lui complètement gelé, qui se fait poser des questions sur pourquoi il se fait arrêter, puis tout ce qu'il fait, c'est chanter ses chansons.
OK.
Il est extraordinaire.
Ah, c'est nice.
James Brown, c'est...
C'est nice du monde. Moi, j'aime ça du monde que j'ai envie d'écouter de loin. Là. Tu comprends ce que je veux dire? J'ai pas envie qu'il fasse partie de mon quotidien zéro. Je sais qu'il serait toxique, mais c'est ça que j'aime. J'aime qu'il existe et qu'il soit toxique pour d'autres mondes.
Je comprends.
Puis là, je suis content qu'il fasse... Je suis triste pour ces gens-là, mais en même temps, je suis comme... Ah, mais tu sais, c'est cool qu'il fasse
ça. Je me dis... Tu sais, c'est quand même fou ce qu'il a fait. C'était... C'est une des premières vedettes noires, l'international. C'est un... Tu sais, c'est un gars né dans une espèce de cabane... Dans le sud des États-Unis, il a inventé un style de musique. Faut avoir un égo surdimensionné. Il n'y a aucun noir à la télé. Ben moi, je vais être le plus connu des. Maintenant, je pense que dans le documentaire, une fois, j'ai vu un documentaire sur lui. Il expliquait. Maintenant, il y avait un show complètement fou. Il y avait les Stones, les Beatles, je sais plus quelle autre band. Et il a incité pour closer.
Ah ouais?
Il a incité pour closer après les Rolling Stones. Et Mick Jagger, son propre avis. En fait, quand on a vu son set, on a fait, on peut pas passer après ça. Là.
Ah ouais.
On peut pas passer après James. Bien que James Brown, genre en 1963, 1967, c'était un des meilleurs showmen de l'histoire jamais vu. Là.
OK.
Yeah. Mais je pense que ça va être ça.
Ben ouais, OK.
Merci beaucoup, t'as été super. Et avant de partir, je veux quand même souligner que je trouve que t'es un artiste vraiment, vraiment, vraiment super à suivre. Je suis heureux qu'on soit dans le même milieu. Je trouve que tu pousses le médium. Et grâce à toi, grâce à ton art, on peut essayer d'autres affaires. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment génial. J'espère que tu aies le plus de projets possible, que tu aies le plus d'argent possible pour créer tes œuvres. Parce que, c'est le fun de les écouter. Puis c'est le fun de s'en inspirer de ta liberté. Je trouve que tu es un être extrêmement libre et j'admire ça. Je suis très heureux d'être ton collègue.
Ben, merci Thomas.
Plaisir.
Un plaisir d'entendre.
Yeah!